Voilà, bah écoutez, nous avons une quarantaine de participants actuellement. Donc je pense que quelques retardataires vont encore nous rejoindre puisqu'il y avait plus de 60 inscrits, avec comme toujours quelques empêchements de dernière minute possibles. Voilà, donc je rappelle qu'il faut couper, ayez la gentillesse de couper vos micros, éventuellement aussi votre caméra, toujours lorsque vous n'intervenez pas. Pour les participants et de façon à avoir la meilleure qualité possible de retransmission pour tous. Donc, couper les micros et les caméras. Bien sûr, il est prévu une participation à la fin après les présentations de Guillaume d'Edvina, et là, vous pourrez bien sûr remettre vos caméras et vos micros. Voilà, Roland, écoute, je te propose que nous démarrions maintenant parce qu'il est 10h07 déjà. Donc, je propose que nous démarrions ce webinaire. Roland, si tu veux peut-être l'introduire, je te passe la parole. Roland? Alors, je ne sais plus, on a perdu Roland. Roland,
Peut-être qu'il a le micro coupé.
est-ce que tu as ton micro coupé? Peut-être, on ne t'entend pas.
Ouais, là, voilà. Bon. D'accord. Non, mais c'est que j'ai le son par téléphone. Et c'est pour ça qu'il y a de l'écho. Je suis désolé. Donc, je vais faire très court. Ouais, Allô? Oui?
Oui.
On vous entend.
Ça va mieux? Peut-être. Ouais, bon. On ne sait plus quoi faire. Mais donc, je vais vraiment pas m'éterniser, quand même peut-être juste saluer au nom du bureau de l'association, qui est représenté dans cette séance par Bernard, Régis Thépeau et moi-même, du moins à ma connaissance, les personnes qui sont là. Et donc, nous vous transmettons à tous salutations du président Christian Kern, qui se réjouit avec tous les animateurs de cette association du succès des webinars. Enfin, nous ne sommes pas les seuls à avoir des succès dans les webinars en ce moment, mais celui-ci est tout particulier puisqu'il met en scène deux stagiaires de la FSM que nous félicitons par la même occasion et que Bernard a su encadrer. C'est une belle affaire et sur un sujet qui nous tient à cœur, puisque depuis que nous l'avons, enfin, parmi d'autres, rapporté de Sendai, il prospère, peut-être pas aussi vite que certains le souhaiteraient, puisque en France, on a du mal à prendre ce genre de concept très mobilisateur, très intégrateur, mais bon, ça vient. L'exercice d'aujourd'hui en est de l'illustration, et nous espérons que cet exercice fera des copies. Il y aura une activité qu'on a déjà initiée, mais qui se poursuivra à la FSCN sur ce thème considérable pour la prévention des risques majeurs. Voilà, c'est tout. Évidemment, dernier mot de la part d'une association pour les non-membres, venus nombreux, nous les accueillons avec grand plaisir et nous espérons qu'ils reviendront quoi qu'il arrive. Mais ils sont aussi bienvenus dans l'association. Il y a des choses à faire ensemble, il y a beaucoup de plaisir à prendre, à se retrouver et à faire réseau, former la plateforme nationale pour la prévention des catastrophes naturelles, c'est l'ambition. C'est à ça que nous vous attendons toutes et tous. Bonne journée et à bientôt.
Merci Roland. Je vais également introduire le sujet de Build Back Better, le sujet de ce webinaire. C'est une notion, une expression anglaise qui est issue, comme le disait Roland, de la déclaration de Sendai en 2015. Donc, c'est une notion relativement récente. C'est une approche qui vise à tirer parti des apprentissages liés aux catastrophes pour réduire la vulnérabilité aux événements futurs et renforcer également la résilience des communautés aux chocs physiques, sociaux, environnementaux et économiques. Différents éléments récents dans le monde et en France militent aujourd'hui en faveur de cette approche Build Back Better. D'abord, les catastrophes climatiques qui se sont multipliées ces derniers mois comme autant de signaux forts du changement climatique qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresses, d'incendies de forêt ou d'ouragans. Ces catastrophes imposent de revisiter les conditions d'occupation de l'espace construit. Et puis également, très récemment, la crise mondiale du Covid-19 qui affecte la santé des populations, la mobilité et l'exercice des activités économiques. Elle confronte aujourd'hui les États et les territoires à la question concrète du relèvement. Or, en France, en particulier, l'approche Build Back Better est faiblement identifiée dans le paysage de la prévention des risques majeurs. D'autres concepts tout aussi utiles ont pris le dessus, comme ceux de réduction de vulnérabilité ou de résilience des territoires. Pourtant, de multiples travaux sont menés et des initiatives sont prises en relation directe avec ce sujet Build Back Better. La FPCN s'interroge donc sur les raisons de l'effacement au moins apparent du concept, sur la façon de le mobiliser et sur les actions qui pourraient en France contribuer aux objectifs fixés à Sendai. Les questions suivantes se posent à nous. Quelle place peut trouver Build Back Better dans la gestion des risques naturels, dans le nouveau contexte introduit par les changements globaux en cours, changement climatique, COVID-19, etc. Quel panorama peut-on dresser des initiatives et des avancées qui ont eu lieu ces dernières années sur le sujet? Quelle grille de lecture donner au Build Back Better pour que ce concept devienne opérationnel en prévention des catastrophes, notamment en matière d'aménagement des territoires et de construction résiliente? Et enfin, quelles orientations pourraient être prises pour un développement futur du concept? Je voulais donc d'ores et déjà remercier Edwina Ebner et Guillaume Kos, élèves de l'ENTPE, de s'être attaqués à ce sujet, sinon difficile, du moins complexe. Si Build Back Better défie les plus expérimentés d'entre nous, gageons que les jeunes générations sauront y apporter des réponses concrètes, comme sur beaucoup d'autres sujets liés aux besoins d'adaptation de nos sociétés. Souhaitons également que ce premier travail mobilise les membres de la FPCN pour poursuivre dans la durée. Donc Guillaume et Edwina vont présenter leur analyse. Ensuite, je proposerai aux participants de nous faire un retour par rapport à cette analyse et par rapport à ce concept Build Back Better, de façon à ce qu'une discussion enrichissante puisse avoir lieu entre tous les participants. Pour démarrer ce tour de piste, ce tour de table, auquel j'espère que vous serez nombreux à participer, je commence par la parole à Ludovic Fettre. Ludovic, tu auras la gentillesse de nous donner un éclairage sur un territoire bien spécifique, puisque c'est celui de la région parisienne qui est exposée au risque inondation, de la Seine en particulier. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je vais passer la parole maintenant à Guillaume et à Edwina pour qu'ils nous fassent le point de leur analyse sur ce sujet, analyse qu'ils vont conduire et poursuivre dans les prochaines semaines, en tenant compte, bien entendu, des échanges qui ont eu lieu ce matin.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous prierai avant, s'il vous plaît, de commencer, que vous puissiez couper vos micros afin d'éviter les interférences et que ce soit agréable pour tout le monde dans l'écoute. Donc, avant de commencer notre présentation, nous allons nous présenter. Alors, Edwina et moi, nous sommes tous deux étudiants à l'ENTPE, qui est l'École nationale des travaux publics de l'État. L'année prochaine, nous allons nous spécialiser dans la voie d'approfondissement cours d'eau, littoral et voie navigable. Ce séminaire, il s'intègre dans notre stage de deuxième année, réalisé par l'AFPCN sur la démarche du Build Back Better. Donc, nous la préciserons, cette démarche, mais pour faire simple, ça consiste à de la reconstruction post-catastrophe. On m'entend bien, Bernard, ou pas?
Oui, c'est bon, Guillaume, je coupe même mon micro, mais c'est bon, c'est parfait.
Cette démarche Build Back Better, nous nous sommes intéressés à deux échelles sur les inondations. Pour Edwina, c'est celle des territoires de l'aménagement, et pour ma part, c'est celle de la construction et du bâti. Ce séminaire, il a pour but de vous présenter l'avancée de nos recherches, c'est-à-dire que nous sommes partis de zéro et avons réalisé un état des lieux de ce qui se faisait aujourd'hui. Et nous l'avons fait dans un contexte général et après sur nos deux échelles. À la fin de cette présentation, vous pourrez interagir, ce qui va nous permettre de préciser notre travail d'écriture par la suite. Donc voilà pour la présentation générale. Maintenant, je vais vous partager le diaporama. mettre en... Ok. On le voit bien ou pas?
Oui. Oui, c'est bon.
Ok, parfait. Ben, je te laisse la parole, Adine.
Donc, ben, merci pour cette introduction, Guillaume. Donc, on va vous présenter notre webinaire « Mieux construire face au risque d'inondation » avec un état des lieux et quelques pistes d'action qu'on pourra vous présenter. Donc, tout d'abord, on va effectuer une présentation générale du concept « Build Back Better », même si ça a été un peu fait déjà par Bernard et par Roland aussi un petit peu. Donc, on va ensuite, je vous présenterai donc l'application du concept « Build Back Better » à l'échelle de l'aménagement. Puis Guillaume fera de même à l'échelle du bâti. Et enfin, on effectuera une conclusion transversale entre nos pistes d'action et l'analyse qu'on aura faite. Donc, je vais commencer par vous présenter Build Back Better avec un rapide historique au niveau international. Donc, le contexte, le mot Build Back Better a été prononcé pour la première fois en 2006, lors du deuxième anniversaire du tsunami 2004 dans l'océan Indien. Donc, on avait Bill Clinton qui a publié un rapport intitulé « Key Propositions for Building Back Better ». Il était à l'époque envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies et il a donc pour la reconstruction donc dans l'océan Indien. Et il a proposé 10 étapes en fait pour une meilleure reconstruction. Donc, entre 2006 et 2015, il y a eu plusieurs rapports qui ont été effectués sur le concept. Et il y avait donc des discussions à propos du Build Back Better, et notamment du mot « better », puisqu'il a posé quelques controverses, car certains lui reprochaient de ne pas être assez précis, il aurait préféré d'autres mots comme « safer », qui aurait peut-être été plus adapté, selon certains. Mais en 2015, on a le cadre Sendai, qui pose en priorité 4 la reconstruction de sociétés plus résilientes après une catastrophe, et qui confirme à ce moment-là le concept Build Back Better. Donc depuis 2015, il n'y a plus de controverses à propos du mot « better ». Ensuite, en 2018, on a un rapport de la Banque mondiale qui définit « Build Back Better » en 3 points, en demandant donc une reconstruction plus forte, c'est-à-dire qui prend en compte l'évolution des territoires et notamment les effets du changement climatique, et donc avec des bâtiments et des aménagements plus résilients, une reconstruction aussi plus rapide, puisque un des objectifs principaux de la reconstruction, c'est que les gens puissent revenir sur place et ou pas, et retrouver une situation d'équilibre, et une reconstruction plus inclusive, c'est-à-dire que personne ne soit oublié lors de la reconstruction et qu'on essaye de limiter les inégalités entre les personnes.
Donc, Edwina vient de vous présenter le Build Back Better à l'échelle internationale, et là maintenant je vais le focaliser sur les inondations et à l'échelle de la France. Donc en France aujourd'hui, un peu plus de 3,7 millions de logements sont situés en zone inondable, ce qui correspond à environ 16 000 communes qui sont menacées par ces inondations, et plus de la moitié d'entre elles ne possèdent pas de PPRI. Donc le risque d'inondation, il est présent sur beaucoup de communes aujourd'hui en France, et elles ne sont pas conscientes du risque qu'il y a. Le concept du Build Back Better aussi, on peut dès le début se poser certaines questions sur des limites qui pourrait, on va dire, le controverser. Est-ce que déjà, il y aurait une attitude peut-être à la reconstruction qui pourrait mettre des difficultés à une reconstruction plus rapide, plus inclusive et mieux, comme l'a précisé Edwina. Après, il y a la question aussi de est-ce que ça ne serait pas intéressant de plutôt s'intéresser à la catastrophe avant qu'elle ne survienne, plutôt que s'intéresser justement seulement après. Et aussi, on verra si on peut lier ce concept aux deux notions qui sont aujourd'hui utilisées par tout le monde, qui sont celles de la vulnérabilité et de la résilience.
Maintenant, je vais vous présenter donc l'échelle sur laquelle moi j'ai travaillé, donc celle de l'aménagement. Donc l'aménagement, on peut le définir comme l'action des acteurs publics et privés qui interviennent sur un territoire donné afin d'en façonner le paysage et pour cela répondre à différents enjeux comme réduire les inégalités, favoriser le développement durable des territoires et rendre les territoires plus compétitifs. Donc les champs d'application de l'aménagement sont variés, donc on a la localisation des activités de production, industrielles et économiques. L'armature, par exemple, on a les armatures et les réseaux urbains pour structurer en fait le territoire et faire des connexions entre eux. Et la planification et les priorités en matière d'infrastructures et de grands équipements. Donc, à l'échelle de l'aménagement, on a plusieurs questions qu'on peut se poser et auxquelles on essayera de répondre pendant la présentation. Donc, comment intègre-t-on le risque inondation dans les politiques d'aménagement? Comment concilier développement du territoire, économie, démographie et réduction de la vulnérabilité aux inondations? Comment la reconstruction peut-elle représenter une opportunité pour un meilleur aménagement? Et en quoi la notion de résilience caractérise-t-elle un territoire capable de faire face?
Donc, je vais faire de même pour la partie bâtie et à l'échelle du quartier de la construction. Donc, le Build Back Better, à cette échelle, il se décline en trois possibilités. Donc, le reconstruire mieux, qui agit sur la qualité, les coûts, les délais de réparation par composant du bâti. Le faire mieux avec l'utilisation de retours d'expérience, de matériaux plus résilients, qui engagent, on va dire, une certaine économie circulaire, notamment pour les nouvelles constructions. Et de connaître mieux, qui fait ressortir la notion de résilience économique que je traiterai un petit peu tout à l'heure. Et donc, ça parle de l'analyse des coûts moyens sur le bâti. Donc, je vais aussi présenter le Build Before Better, puisque j'en ai parlé. Donc, pour du bâtiment existant, ça passe par de l'adaptabilité. Et pour le bâtiment neuf, de la prise en compte dès la conception. Donc, pour illustrer cela, j'ai mis les trois stratégies actuelles pour se parer des inondations. Donc, il y a le éviter, c'est-à-dire se mettre en hauteur, par exemple, des pilotis ou surélever le rez-de-chaussée de sa maison pour empêcher les eaux de pénétrer dans le bâtiment. Il y a la stratégie résister, qui consiste à résister tout simplement, c'est-à-dire on va prendre des précautions, exemple des bâtards d'eau, des pompes à eau pour éviter l'eau de rentrer. Cette possibilité, elle est possible seulement si les hauteurs d'eau sont inférieures à 1 mètre. Si elles sont supérieures à 1 mètre, il va y avoir trop de pression sur les murs, ce qui pourrait faire des dommages irréversibles sur le bâtiment. Dans ce cas-là, on est obligé de laisser rentrer l'eau, c'est la stratégie CD. On est obligé, on va dire, de mettre en place des dispositifs pour pas que le bâtiment soit trop affecté, c'est-à-dire mettre les équipements électriques en hauteur et mettre des composantes qui ne seront pas sensibles à l'eau. Ensuite, le Build Back Better, à cette échelle, il se décline aussi avec les deux notions qui sont utilisées aujourd'hui. La vulnérabilité, c'est une évolution de la robustesse du bâti face à un aléa. Et la résilience, qui a trois déclinaisons, elle aussi, il y en a une d'économie, une d'usage et une de conception. Concernant les problématiques du Build Back Better à l'échelle du bâti, est-ce que le post-catastrophe, c'est une opportunité pour mieux reconstruire? Est-ce que, alors dans ce cas-là, on ne pourrait pas s'intéresser avant la catastrophe plutôt qu'après? Il y a aussi la question du financement des travaux. Qui sait qui doit s'intéresser aux travaux de financement post-construction ou peut-être même avant? Et est-ce que les référentiels techniques aujourd'hui sont-ils suffisants pour bien reconstruire ou bien s'adapter aux inondations?
On va maintenant vous présenter donc, l'application du concept Build Back Better centré sur l'échelle de l'aménagement. Donc, je vais commencer d'abord par vous faire une analyse bibliographique et ensuite donc, je vous présenterai les éléments clés qui en ressortent, puis quelques pistes d'action qui, suite à l'analyse et aussi aux entretiens téléphoniques que j'aurais eu avec différents contacts. Donc, on peut définir plusieurs territoires à l'échelle de l'aménagement. Donc, tout d'abord, on a des territoires qui sont vulnérables, c'est-à-dire qui sont exposés au risque d'inondation avec des niveaux d'enjeux élevés ou très élevés. Et donc, ces territoires vont probablement ou potentiellement connaître une catastrophe. Donc, il peut être intéressant de commencer à réfléchir à leur reconstruction en amont. Donc, on peut dire qu'en France, il y a deux nouvelles et à l'international, il y a deux nouvelles vulnérabilités qui ont été identifiées. Donc, ce sont les zones derrière les digues et les littoraux. Donc, pour commencer par les digues, pendant longtemps, ça a été une stratégie dominante. Ça a été la protection, donc c'est-à-dire d'utiliser des solutions techniques avec les solutions d'endiguement et les barrages, qu'on utilise beaucoup pour répondre aux risques d'inondation. Et qu'on utilise même en reconstruction, en se croyant vraiment protégé derrière. Mais aujourd'hui, cette stratégie est devenue problématique, puisqu'on a eu plusieurs événements qui nous ont fait comprendre que ça donnait un faux sentiment de sécurité et favorisait l'oubli des populations, puisqu'on a beaucoup construit derrière ces digues, et que le parc français de digues et de barrages est considéré comme ancien et mal entretenu par plusieurs auteurs. Et les différents événements qui ont permis cette prise de conscience du risque, enfin de la, du caractère de risque, en fait, de risque technique des digues. Donc, ce sont les inondations donc du Gard en septembre 2002, puisqu'on a eu plusieurs, on a eu une rupture de digue à Aramon qui a fait 5 morts. On a eu aussi en février 2010, lors de la tempête Xynthia, une rupture de digue qui a fait des dizaines de morts. Et de plus, en mars 2010, lors du centenaire de la crue de référence de Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes suite à l'urbanisation de la région parisienne, puisque après les inondations donc, de 1910, donc cette crue de référence, on a construit en fait des barrages dans la région parisienne, mais quelques années après, on s'est cru protégé, on a oublié le risque, et on a beaucoup urbanisé en fait en région parisienne derrière les barrages, ce qui a fortement augmenté le niveau d'enjeu exposé. Et c'est ce qu'on a vu lors de l'exercice Sequana en 2016 dans la région parisienne, puisqu'on a vu qu'avec des hauteurs d'eau similaires à 1910, on aurait plus de dégâts qu'en 1910. Le deuxième territoire vulnérable qu'on peut citer désormais, donc c'est les littoraux. Donc, qui ont connu aussi une augmentation du risque à cause de là aussi de l'urbanisation et de la croissance démographique, mais aussi à cause d'événements naturels avec le changement climatique, à cause donc de la réhausse du niveau marin et de l'augmentation de fréquence des événements extrêmes. Donc, à l'international, donc, on a des risques pour les grandes métropoles comme Bangkok et Jakarta, qui là aussi ont augmenté leur niveau de d'exposition au risque, puisqu'elles ont fortement urbanisé les littoraux, puisqu'elles ont connu, ces villes ont connu donc des croissances économiques et démographiques très rapides. Et donc elles sont soumises au phénomène de subsidence, et certaines parties du territoire s'enfoncent même sous le niveau de la mer à 13 cm par an. En France, donc c'est plutôt un autre risque qui pèse sur les littoraux, puisque la dynamique d'urbanisation est ancienne. Par exemple, en 1936, on avait déjà 10% de la population française qui se concentrait sur les littoraux, et ça n'a cessé d'augmenter en raison de l'attractivité de ces territoires. Et donc, ce qui fait que les littoraux représentent un enjeu, notamment après Xynthia en 2010, on a remarqué donc des avancées donc sur la prévention du risque de submersion marine, comme j'ai essayé de le montrer avec le schéma en 8 inversé 6 contre, donc le schéma de la panarchie. Donc on voit en zone en phase 1, donc qui est en bas à gauche, on voit que on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un risque sur les territoires de la faute sur mer, donc il y avait un risque pour les littoraux. Mais en phase 2, on a conservé en fait l'état du littoral et on n'a pas changé les choses. Et c'est ainsi qu'en phase 3, donc il y a la catastrophe Xynthia qui est arrivée en 2010 et qui a vraiment amené à une prise de conscience, donc qui amène en phase 4 à vouloir sortir de cette boucle. Donc c'est la phase qui est en haut à gauche. Donc on veut vraiment sortir de la boucle et c'est ce qui se passe avec les avancées au niveau national où on prend plus en compte le risque submersion marine dans les PAPI depuis 2011. Et aussi avec plusieurs guides du CEPRI qui présentent comment analyser ce risque de submersion marine et comment un peu le contrer. Ça fait que ces nouvelles vulnérabilités entraînent des enjeux de diagnostic et de stratégie afin de réduire cette vulnérabilité. Ainsi, pour réduire cette vulnérabilité, il faut d'abord être capable de l'évaluer. Donc, on a plusieurs outils en France qui permettent de l'évaluer. Donc, on a les déclarations CatNat qui donnent un nombre de déclarations produites pour un territoire donné et qui permettent d'évaluer les dégâts. On a aussi les territoires à risque important d'inondation depuis la loi Grenelle 2 et qui évalue la gravité d'une inondation. On a aussi le référentiel national de vulnérabilité à l'inondation depuis 2016. Qui est plus axé sur le type de dommage potentiel. Et on a aussi donc quelques démarches qui ont été faites au niveau local, donc de diagnostic, et qui sont complémentaires aux techniques d'évaluation citées précédemment. Donc on a la démarche Réviter, qui est centrée sur le bassin rhodanien, et la démarche Métaux de Loire. Donc une fois qu'on a pu évaluer cette vulnérabilité, On peut essayer donc de trouver des stratégies plutôt alternatives à celles de la protection et audit, donc des stratégies de réduction de la vulnérabilité qui seraient plus respectueuses de la nature et qui seraient peut-être moins dangereuses que des digues. Donc on a l'exemple de la renaturation, comme ça a été fait pour la bouillie à Blois, où on a en fait désurbanisé un champ d'expansion de la bouillie afin d'écouler plus de débit et de donner plus de place à l'eau. On a aussi donc le plan Cadreau à Nîmes, où on a désurbanisé aussi des cadreaux et on les a plutôt débouchés et élargis afin d'écouler aussi un plus grand débit en cas de crue. On a aussi une stratégie de relocalisation, donc qui est encore peu fréquente en France, mais qui est plus utilisée en tout cas pour les zones basses littorales que pour les zones soumises aux crues continentales. Donc puisque le risque avec le recul du trait de côte, il est plus visible en fait sur les littoraux et donne envie aux élus et aux populations de prendre conscience de ce risque et d'essayer de le réduire. Donc pour cette relocalisation, on peut utiliser. Ah, je crois qu'il y a une question dans le chat. Cadreau. Ah oui, ce sont des petits. Les cadreaux sont des. Comment dire, des rivières en fait, enfin des bras des rivières qui sont à sec, à Nîmes en tout cas, et du coup qu'on peut essayer de désurbaniser pour donner de la place à l'eau s'il y a une inondation et ainsi laisser couler. Voilà. Donc je reprends sur la relocalisation. Sur les zones basses littorales, qu'est-ce que j'en étais où déjà? Donc oui, on peut donc essayer de relocaliser. Pour ces relocalisations, peuvent se faire à l'aide du fonds Barnier et donc essayer de le faire à l'amiable en utilisant le fonds Barnier, mais c'est encore très peu utilisé. Et donc les exemples de grosses relocalisations à l'international, donc c'est l'exemple de la ville de Jakarta qui est soumise actuellement au risque de subsidence. Et donc l'Indonésie veut relocaliser sa capitale sur les îles de Bornéo, mais cela présente donc une faiblesse donc de la stratégie de relocalisation, puisque ça va présenter d'autres risques pour le territoire des îles Bornéo, comme pour la biodiversité de cet endroit. Pour réduire la vulnérabilité, donc on est obligé de passer par la réduction de vulnérabilité des réseaux. Donc on voit que les constructeurs de réseaux et les gestionnaires sont de plus en plus conscients du risque qu'ils représentent et qu'il est pour réduire la vulnérabilité, il faut les durcir pour favoriser un relèvement plus rapide du territoire. Et donc, on voit que pour réduire la vulnérabilité, on a une nouvelle échelle de gestion et de gouvernance, donc notamment à l'échelle du bassin versant et qui regrouperait plus d'acteurs, donc avec la compétence GEMAPI. Donc, ces territoires, donc on a vu qu'il y avait des territoires qui étaient vulnérables et donc certains ne peuvent pas suffisamment réduire leur vulnérabilité et donc se retrouvent impactés par une catastrophe et ils sont donc à reconstruire. Donc la préoccupation principale de la reconstruction, on peut dire que c'est le retour rapide à une situation d'équilibre puisque les habitants souhaitent regagner leur habitation et retrouver leur situation le plus rapidement possible. Donc avant 2010, on voit qu'en France, on a de nombreux cas de reconstruction sur place à l'identique. Et cela peut s'expliquer par le droit de reconstruire, comme dit la thèse de Annabelle Moati, donc, qui dit qu'en fait, chaque habitant a le droit de reconstruire à l'identique son habitation sur place. Et c'est écrit donc dans le Code de l'urbanisme. Mais on remarque dans cette période quelques bonnes pratiques. Donc c'est le cas de l'opération Mazer, qui en 1996 a lancé en fait une opération de réduction d'insalubrité de l'habitat. Et ensuite, comme ça, en 2002, lorsque les inondations du Gard ont eu lieu, eh bien, cette opération a pu prendre en compte des mesures de réduction de vulnérabilité, donc ce qui est plutôt un bon exemple. On a aussi des bons exemples au Québec, où on a deux villes qui ont une gestion différente de la reconstruction, et ce qui a permis de voir que ça pouvait avoir des conséquences. Parce que en 1996, lors des inondations du Saguenay, on a vu que la ville de Labbé avait eu une équipe sur place qui avait rapidement pris des décisions en une semaine et avait informé les populations qui pourraient reconstruire ou pas leur habitation. Et ça n'a pas été le cas en fait dans la ville de Chicoutimi, où là aussi il y a une équipe, mais elle n'a pas pris les mêmes décisions et elle n'a pas aussi bien informé les populations. Ce qui fait que dans cette ville de Chicoutimi, donc il y a peu de choses qui ont changé après, et les habitants se sentent des années après la catastrophe aussi vulnérables et en veulent aux autorités. Après 2010, on voit que la reconstruction est de plus en plus vue comme une fenêtre d'opportunité, car c'est après une catastrophe que les élus et la population sont le plus sensibilisés et voient que leur situation peut être vulnérable et donc sont le plus à même de prendre des décisions afin de la réduire. Donc, Build Back Better représente bien un concept nouveau. Donc, comme on peut le voir, par exemple, des États-Unis, où plusieurs exemples de reconstruction sont encore en cours, comme la ville de Nouvelle-Orléans après Katrina en 2005, et aussi les villes aux alentours de New York suite à la catastrophe Sandy en 2012. Donc, pour la Nouvelle-Orléans, on voit qu'il y a encore des lacunes puisque beaucoup d'habitations n'ont pas été réhabilitées par leur population et sont encore laissées à l'abandon. Donc même si la Nouvelle-Orléans essaye de se donner une image de résilience en faisant partie du 100 Resilient Cities, de ce programme, on voit qu'elle n'a pas encore achevé sa reconstruction et que des inégalités, comme on a pu le voir aussi après Sandy, des inégalités sociales subsistent. Donc, on voit que Build Back Better est aussi un concept de recherche, puisqu'il est, il est sujet au projet ANR Relève du CEREMA, qui pose la question peut-on reconstruire vite et durablement un territoire suite à une catastrophe naturelle? Donc, pour cela, le CEREMA étudie des retours d'expérience après la catastrophe Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ils ont déjà vu qu'il y avait eu des problèmes donc, de gouvernance entre le gouvernement national de la France et les gouvernements locaux qui étaient sur place lors de la reconstruction, qui est toujours d'ailleurs en cours actuellement. Donc Build Back Better représente bien un concept nouveau, mais des actions d'aménagement ont déjà été menées, même si elles ne portaient pas le nom de Build Back Better. Donc par exemple, l'éco-quartier des Ardoines à Paris est un exemple même de Build Before Better, puisqu'on a, avant d'avoir une catastrophe, on a essayé de mettre en place un projet. Et tout de suite, en fait, l'éco-quartier des Ardoines donc, a choisi de ne pas utiliser en fait, des stratégies de protection habituelles, donc de ne pas rehausser les digues, puisqu'ils savaient que ça pourrait, les porteurs de projets savaient que ça pourrait impacter les villes alentours, comme Paris. Et Alfortville. Donc, ils ont choisi plutôt des solutions urbaines comme l'étagement du site, le décaissement des berges et le redéploiement des activités dans l'espace en fonction de leur nature. Donc, Build Back Better présente pourtant déjà des limites à son application en France, comme la complexité et la longueur des procédures, puisque si par exemple on veut appliquer une stratégie de relocalisation dans un quartier, on est obligé donc de réviser les PPRI. Donc cela, ça prend du temps, après une catastrophe, de réviser, de faire des études et des cartographies. Et une fois qu'on a fait cette révision, pendant ce temps-là, les habitants ont pu avoir le temps de reconstruire leur habitation. Et donc c'est compliqué, 2 ans après, d'aller les voir et de leur dire, en fait, vous ne pouviez pas reconstruire. Donc ça, c'est problématique pour les procédures. Et il est aussi difficile, en fait, de s'appliquer à des quartiers existants. Donc c'est l'exemple de la région parisienne, car si une crue en fait de la Seine arrivait, eh bien tous les quartiers ne seraient pas détruits de Paris, et donc il pourrait être difficile de s'attaquer à une reconstruction différente de la ville. Et c'est aussi donc ça a été aussi l'exemple du quartier Richelieu à Nîmes, qui était un quartier qui a été le quartier le plus touché après l'inondation de 1988, et ça avait été aussi un quartier paupérisé. Donc c'est difficile de s'attaquer donc à la reconstruction de quartiers hein, comme ça et où d'autres enjeux doivent être à étudier comme des enjeux patrimoniaux et historiques. Donc suite à des catastrophes, donc ces territoires qui ont été à reconstruire peuvent être devenus résilients. Donc un territoire résilient, c'est un territoire territoire qui, après une catastrophe, a su modifier sa relation à ce type d'événement pour mieux l'anticiper. Donc on peut dire sa résilience au sens de sa capacité d'adaptation et d'organisation pour faire face à une catastrophe. Donc on a plusieurs exemples de pays qu'on peut qualifier comme résilients, donc comme les Pays-Bas, qui suite aux inondations de 1953 ont su en fait, ont réalisé un plan Delta, donc avec des barrages, des digues sur tout le pays, et ensuite sont revenus dans les années 90 sur ce plan et ont choisi d'autres solutions que les digues et en ont même retiré certaines et donc sont ainsi devenus un exemple de résilience. Donc c'est l'exemple de la ville de Dordrecht qui, dans le cadre de l'Urban Flood Management, a utilisé donc des aménagements qui s'adaptent aux cours d'eau et a essayé en fait de distinguer centre-ville, quartier, espace public pour les rendre adaptés à une inondation. Et donc c'est le plan Room for the River qui donne plus de place à l'eau dans la ville. On a aussi en Allemagne le quartier Daffen City à Hambourg, qui là aussi est un exemple de résilience puisqu'ils utilisent des TERPS, c'est-à-dire des surélévations des bâtiments de 8 à 9 mètres et donc ils utilisent et qui peuvent être des garages et ainsi peuvent être inondables en période de crue. Et ils utilisent aussi l'eau comme une ressource et non comme une contrainte, c'est-à-dire que l'eau peut ainsi servir au rafraîchissement et au chauffage en fait des bâtiments. Donc l'eau a une toute autre place dans la ville. Donc on a aussi des exemples en France de quartiers qu'on peut qualifier de résilients, comme le quartier Hoche à Nîmes, où on a choisi d'urbaniser une vingtaine d'hectares de friches proches du centre-ville, et on a utilisé donc des aménagements hydrauliques et des espaces verts pour le rendre plus propre à une inondation et plus adapté. Donc maintenant, on peut voir que pour ces territoires résilients, l'eau est plus envisagée comme un élément de paysage et de projet. Comme ça, si on voit en fait l'eau tout autour de soi, comme on peut le voir dans le ci-contre avec le projet d'aménagement à Strasbourg, on voit que l'eau est partout autour des bâtiments. Donc cela peut permettre de favoriser une culture du risque et une meilleure vision de sa place pour les habitants. Donc ça a été le rôle de l'atelier national « Comment mieux bâtir en terrain inondable constructible » qui a montré certains projets favorisant cette plus grande place de l'eau dans la ville. On a aussi des rapports, notamment du CEPRI en 2015, qui permettent de montrer qu'il y a des techniques alternatives aux digues et aux solutions techniques qui permettent un aménagement différent et complémentaire. Et c'est par exemple le fait de localiser les activités en fait en fonction de leur niveau d'enjeu. Et donc, cela permet de les rendre plus résilientes face à une inondation. Et donc, il peut être intéressant pour rendre une ville plus résiliente après une inondation, donc d'utiliser des aménagements pour anticiper la gestion de crise et le post-crise. Donc, pour cela, on peut faire des cheminements hors d'eau entre les bâtiments. Donc, c'est-à-dire des passerelles en hauteur qui pourront être utilisables si une inondation a lieu et aussi on pourrait circuler entre les bâtiments même en période de crue et aussi utiliser des aménagements multifonctions, c'est-à-dire un bâtiment qui aurait une fonction normale en période pas de crue et par exemple une école comme ça a été réfléchi pour la ville d'Orléans ou un gymnase. Et ainsi, et en période d'inondation, cet aménagement multifonction pourrait servir de centre de crise et accueillir les réfugiés, les gens qui auraient besoin de se réfugier en post-crise. Donc, cela permettrait de réduire les surcoûts dus à la résilience. Donc, suite à cette analyse bibliographique, il y a plusieurs éléments clés qu'on peut donner. Donc, je vais le faire pour chacun des territoires que j'ai cités. Donc, pour les territoires vulnérables, on voit que des anciens schémas de pensée sont toujours vivants. Donc, c'est la reconstruction à l'identique et le choix de se protéger par les digues. Même en reconstruction, donc c'est une technique qui prévaut. Donc, on a une croyance forte que la technique peut nous protéger en fait, de toutes les catastrophes naturelles et donc des inondations. On a aussi une prise de conscience récente de vulnérabilités encore méconnues, comme on l'a vu, les submersions marines les crues éclairs, que les digues donc ne peuvent pas nous protéger de tout, et le phénomène de ruissellement qui est encore très peu pris en compte dans les PPRI, puisqu'il est difficilement quantifiable. Pour les territoires à reconstruire post-catastrophe, on voit que, que les processus de reconstruction sont très longs et favorisent donc l'oubli des populations. Par exemple, suite à une catastrophe, on peut décider de faire un projet, mais une fois que le projet est achevé, il est possible que les habitants, vu que ça a été fait des années après, aient oublié que si on a fait tel aménagement, c'est pour répondre à telle inondation. On voit aussi qu'il y a des obstacles juridiques, comme le droit de reconstruire et la longueur donc, des procédures PPR. On a aussi donc, le coût et les coûts et les complexités des démarches d'adaptation, notamment de la démarche de relocalisation, puisque le temps qu'on ait pris la décision de faire, d'appliquer cette stratégie, donc les habitants, après une catastrophe, ont pu avoir le temps de reconstruire à l'identique leur habitation, et c'est compliqué de leur dire après qu'il faut partir de cet endroit. Et on voit aussi une méconnaissance des démarches de reconstruction, puisqu'il y a très peu de retours d'expérience sur cette phase qui est encore très mal identifiée par les élus et par les habitants. Pour les territoires donc devenus résilients, on voit que de plus en plus, on essaye de donner plus de place à l'eau dans les paysages, et que si ce risque d'inondation est visible, est visible en étant intégré dans le paysage, ça peut favoriser la culture du risque et donc mieux préparer les populations. On voit aussi que des nouvelles pratiques peuvent permettre d'avoir des zones plus résilientes. Donc c'est notamment le cas qu'on a avec l'exemple du Québec, où les prises de décision rapides ont permis dans la ville notamment de l'Abbé d'être plus transparent avec les populations et donc de les rendre mieux préparés face à une inondation future. On voit aussi que des structures, lorsque des structures et de choisir en fait les personnes qui seront chargées de la reconstruction, bah, ça peut être très utile pour cette phase. Ça a été notamment le cas en Indonésie, donc suite aux inondations de 2004, où on a choisi, où c'est pas leurs techniques reconstructives à proprement parler qui ont été mises en valeur, mais plutôt leur capacité à faire des liens entre les acteurs de la reconstruction et avoir une meilleure gouvernance sur le long terme. Et enfin, c'est le cas en France, donc on a vu que lorsque les projets étaient engagés, même s'ils n'étaient pas faits pour les inondations, donc comme ça a été le cas pour le quartier Mazères, que lorsque des projets étaient engagés donc avant la catastrophe, cela pouvait permettre de ensuite prendre en compte la réduction de vulnérabilité et rendre le territoire mieux préparé aux inondations. Donc suite à cette analyse bibliographique et aux différents entretiens téléphoniques que j'ai eus avec les contacts, je vais vous proposer plusieurs pistes aux différents cas de figure envisagés. Donc, tout d'abord, sur cette diapo, je vais présenter des mesures stratégiques au Build Back Better. Donc, pour commencer, on pourrait en fait établir un cadre juridique clair avec, pourquoi pas, une institution qui aurait des fonctions, des pouvoirs et serait déterminée sur une durée choisie. Et donc, tout ça dans un cadre juridique. Et ainsi, il faudrait donc définir un cadre d'action national. Donc, c'est avec une structure qui aurait un budget propre et qui aurait les capacités en fait de le dispatcher si une inondation survient entre les structures locales. Et cela pourrait être intéressant, par exemple, si une inondation touchait plusieurs régions. Donc, elle pourrait dispatcher ainsi ce budget. Donc, ça a été l'exemple du Pakistan, où une autorité chargée de la réhabilitation et de la reconstruction du séisme au Pakistan a été utilisée donc comme autorité centrale à durée limitée, et ce sont ses efforts à long terme qui ont constitué la majeure partie de son mandat et qui ont permis une reconstruction donc sur le long terme. Ensuite, au niveau local, on pourrait réfléchir sur un plan organisationnel sur le temps long, donc comme le propose le CEREMA. Donc, c'est-à-dire on pourrait mettre les acteurs de la reconstruction en amont autour de la table et désigner parmi eux un leader de la reconstruction sans attendre qu'une catastrophe survienne. Et donc ce leader aurait des capacités de décision et un véritable pouvoir pour informer les populations sur la pertinence de leur reconstruction, de la reconstruction de leur habitation ou non. On pourrait aussi mieux distinguer les démarches de gestion de crise et de reconstruction en choisissant des personnes différentes, puisque une personne qui aura géré la crise ne pourra pas gérer la reconstruction, ça paraît vraiment difficile. Et enfin, on pourrait donc créer un fonds spécial donc pour cette structure qui pourrait financer la reconstruction et qui serait différent du fonds CatNat puisqu'il ne semble pas adapté à une reconstruction à l'échelle de l'aménagement. Ensuite, on peut passer à des mesures plus techniques qui valorisent donc des dispositifs existants. Donc pour cela, il faudrait intégrer Build Back Better en amendant les projets d'aménagement. En effet, au début, j'imaginais donc qu'un plan d'aménagement technique spécifique à un territoire donné pouvait sembler pertinent. Mais suite aux discussions que j'ai eues et aux recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas acceptable pour les habitants, puisqu'on ne pouvait pas leur dire après une catastrophe, on avait réfléchi à un plan en amont et on vous le sort que maintenant après la catastrophe. Donc ça paraît un peu compliqué. Et de plus, le territoire a le temps de changer avant la mise en place du plan de reconstruction s'il n'a pas été redéfini après. Donc, par exemple, les propriétaires ou les relations entre les élus peuvent être complètement différentes lorsque l'inondation arrive. Donc une solution, en fait, ça pourrait être de réfléchir en fait à plusieurs propositions pour un territoire et un quartier. Donc même des solutions qui pourraient être considérées comme trop ambitieuses et pas adaptées pour un quartier dense ou historique. Et choisir donc une des solutions et commencer des travaux, donc même si c'est pas la plus ambitieuse. Et ainsi, lorsque la catastrophe ou l'inondation arrive, on aura réfléchi à des solutions qui pouvaient peut-être sembler trop ambitieuses, mais qui pourraient être adaptées pour un quartier à reconstruire. On pourrait aussi donc mobiliser plus fortement les documents d'urbanisme, donc inscrire toutes ces propositions dans les documents qui sont encore très faiblement mobilisés pour le risque inondation. On pourrait aussi donc disposer de retours d'expérience qui identifieraient mieux la phase de reconstruction et lui donnerait plus de place puisqu'elle est encore confondue avec la phase de gestion de crise et peu mise en lien avec la prévention en fait des inondations. Et enfin, il serait pertinent donc d'impliquer plus les citoyens au moyen, notamment après une inondation, on pourrait utiliser des diagnostics partagés avec eux, donc pour leur faire comprendre si le choix de reconstruire leur habitation au même endroit pourrait être pertinent ou non.
Alors maintenant, nous allons passer à l'échelle du bâti avec les constructions. Donc, je vais faire de même. Je vais commencer par une analyse bibliographique qui va commencer, on va dire, des prémices réglementaires et financières qui va aller jusqu'à à peu près 2020 aujourd'hui. Ensuite, je mettrai un peu en relief ce qui me semble important aujourd'hui et je vous proposerai de même quelques pistes d'action pour essayer de pallier aux problèmes qu'en France on peut connaître. Donc, je vais commencer par les prémices réglementaires et financières pour commencer mon analyse bibliographique. Ça commence à partir de 1960 avec au début les constructions sont remblées, c'est-à-dire que les gens ils arrivaient pour se.
J'entends plus. N'entendons plus la présentation de Guillaume.
Ah, c'est bon.
Tu veux qu'on fasse comment les commentaires, on les répond à la fin?
Ah oui, à la fin, oui.
D'accord, très bien. Bon, ben, je vais reprendre. Donc, ça commence à partir. Ben, je l'ai dit, les gens, ils se mettaient en hauteur sur des remblais pour éviter les inondations. Sauf que c'était une technique d'aménagement problématique car ça empêchait l'écoulement naturel des eaux et donc ça inondait davantage les bâtiments se situant en aval. Donc on peut dès à présent, on va dire, faire la différence entre la construction et l'aménagement. Donc des travaux sur la construction, ça va être des travaux réalisés sur un bâtiment et qui n'accentuent pas la vulnérabilité d'autres. On peut prendre l'exemple des pilotis, où par exemple l'écoulement des eaux entre les pilotis ne va pas accentuer la vulnérabilité des bâtis aux alentours comme les rambouillets. À partir de 1982, il y a eu le régime CatNat, qui indemnise les sinistrés à la suite des dommages et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. L'expert, à la suite d'une inondation, va chez le particulier et évalue les dommages et le régime CatNat indemnise ces dommages. Ensuite, en 1995, il y a les PPRN qui sont arrivés, qui avaient un certain rôle de cartographie. Donc, ils vont identifier les zones exposées au risque naturel. En ce qui concerne les inondations, ça va être les PPRX qui vont occuper et ça va y instaurer des mesures réglementaires. Dans cette même année, il va y avoir aussi le fonds Barnier qui, lui, indemnise les cas de catastrophes naturelles non pris en charge par les compagnies d'assurance habitation et il va financer aussi une partie des travaux, des mesures réglementaires des PPRI. Donc, j'ai mis un exemple du quartier d'Oegviet aux Pays-Bas pour montrer que les Pays-Bas, on va dire, ils sont largement plus en avance que nous. Et s'adapter, on va dire, déjà au risque en faisant, j'ai mis un schéma, les sous-quartiers sont vachement espacés permettant la perméabilisation des sols. Et d'ailleurs, c'est même une obligation aux Pays-Bas d'avoir une certaine superficie des sols qui sont perméables aux eaux pour éviter les grandes inondations avec des ruissellements urbains importants. Donc, pour continuer mon analyse bibliographique, on se rend compte qu'à partir des années 2000 et ce jusqu'à 2010, il y a la notion de vulnérabilité qui s'impose en France. Donc, elle passe tout d'abord en fait par la définition de diagnostic. Donc, pour illustrer cela, j'ai mis l'exemple du CEPRI, mais il en existe beaucoup d'autres. Une fois la publication de ces guides présentes, on va dire définir un certain cadre d'intervention. Est-ce que ces diagnostics vont être obligatoires ou non? Je pense notamment aujourd'hui où beaucoup de diagnostics deviennent obligatoires dans les PPRI. Donc, ça peut être une bonne chose ou pas, je vous dirai plus tard. Ensuite, il y a la question aussi du financement. Qui c'est qui doit financer ces diagnostics? Donc, ça, souvent, on va dire l'acteur de la démarche. Je pense par exemple à l'EPTB des Gardons dans la démarche à l'abri, qui finançait, on va dire, des diagnostics de l'habitat pour un certain nombre de communes. Mais il peut y avoir également l'État ou la région qui propose des subventions pour ces diagnostics afin que les habitants n'aient rien à payer. Il faut également aussi trouver des maîtres d'ouvrage qui sont en capacité de réaliser ces diagnostics de l'habitat. Et une fois, on va dire, ces diagnostics réalisés, il faut ben, prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité et donc faire ce qu'a recommandé le diagnostic. Donc, cela passe par, on va dire, des mobilisations des particuliers. Souvent, il y a des manques de temps, des manques d'argent qui vont en fait faire qu'il y a peu de mesures qui vont être prises en compte. Pour vous donner un chiffre, les TP des Gardons, sur 1 000 diagnostics, au final, 80 ont réalisé des travaux de vulnérabilité, de réduction de la vulnérabilité. Donc, 8%, on va dire, c'est relativement faible. Donc, il y a une nécessité, en fait, d'un accompagnement individualisé, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté d'ordre social, il y a autant de cas particuliers que de dossiers. Par exemple, un diagnostic, ça va être une famille ayant ses propres problèmes. Donc, pour prendre des mesures et que ça marche, les diagnostics, il faut vraiment les accompagner du début jusqu'à la fin. Après 2010, ben, en fait, c'est surtout en 2010, il y a une étape clé, on va dire. Où à la fois, il y a la tempête Xynthia qui fait 47 morts en France, c'est de 2,5 milliards d'euros, et qui a montré une réelle nécessité d'adapter son bâti aux inondations. De nombreux bâtis étaient sur un rez-de-chaussée et lors de la montée des eaux, les personnes se sont retrouvées piégées à l'intérieur de leur demeure et sont malheureusement décédées. Donc, ça a montré, on va dire, cet événement, une grande nécessité d'adapter son bâti. Et on peut voir en même temps qu'en 2010, il y a le commencement d'un projet qui est le quartier Matra Romorantin par l'architecte Éric Daniel Lacombe, qui en fait a duré 5 ans et mélange des techniques d'aménagement et un bâti adapté. Donc, ça passe par des surélévations d'immeubles, des couloirs de circulation d'eau. afin que le quartier ne pose pas un problème à l'écoulement des eaux. Et ce quartier, il a permis en fait en 2016 de résister à une forte inondation qui était bien plus supérieure à la plus haute connue pour ce quartier. Donc on voit que l'année 2010, ben, il y a quelques, on va dire, projets qui prennent en compte le risque, mais on va dire que c'est pas beaucoup, c'est très peu. Et après 2010, ben, il y a une période de transition en France, ben, où on est toujours à mon goût, je trouve. Celle-ci, elle a été provoquée par, en fait, en 2007, la directive européenne inondation, qui a été transposée en 2008 en France, puis l'État français a adopté la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en 2014. Donc, on va dire, toutes ces étapes clés, mais qui sont quand même importantes, mais il y a une nécessité, en fait, en France, il y a un délai pour que tous les engrenages se mettent bien en place, et même après la stratégie en 2014, il faut que les collectivités la prennent réellement en compte, donc ça ajoute un délai supplémentaire. Donc, cela crée une période de transition où il n'y a pas grand-chose qui évolue, et donc, voilà, c'est un peu problématique. Cette transition, elle est aussi provoquée parce qu'il faut travailler une échelle différente du PPR. Les PPR, ils ont une trop grande échelle. Et on peut voir que, par exemple, à celle de la construction, il y a un manque de documents techniques qui est d'ailleurs montré par le CGEDD qui, en 2017, ont fait une lettre pour dire qu'il y avait la nécessité d'un DTU inondation. De même, à l'échelle du bassin d'inondation, il y a l'État qui met à disposition des collectivités des référentiels, par exemple, j'ai dit Cérama, mais il y en a d'autres, et qui, on va dire, reforment les papiers, par exemple, les papiers troisième génération, pour essayer d'aider les collectivités. Il y a également, on va dire, la notion de résilience qui survient en France, et on va dire, elle apporte aussi un petit peu de troubles parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on l'utilise mais on ne sait pas comment ce que c'est vraiment exactement. Et donc elle a été apportée en 2015 à la plateforme de Sendai. Bon, elle existait déjà auparavant mais pas, on va dire, vraiment utilisée. Et aussi les professionnels de la construction l'utilisent pas mal, mais un petit peu, on va dire, à toutes les sauces, c'est-à-dire que ben, c'est un peu de la résilience par-ci, par-là, on ne sait pas trop comment la définir, c'est un mot bien, du coup on l'utilise, voilà, simplement. Et en 2019, on va dire, pour essayer de redynamiser cette transition, il y a une révision du fonds Barnier pour le rendre plus visible et plus opérationnel. Pourquoi plus opérationnel? Ben, en fait, c'est un fonds en grand excellent et il n'utilise pas son argent pour faire de la prévention, ce qui est son rôle principal. Donc, l'État, voyant ça, c'est en 2016 et 2017, ou 2017 et 2018, je ne sais plus, a prélevé au total sur ces deux années 120 millions d'euros à ce fonds. Donc, c'est 120 millions d'euros qui sont pas disponibles pour la prévention et être utiles dans cette phase de reconstruction liée aux inondations. Et ce fonds donc, a été rendu plus opérationnel pour en fait, le financement des PPRI. À la base, c'était au maximum 40% et maintenant, les travaux liés aux PPRI sont augmentés jusqu'à 80%. Donc, c'est, on va dire, une bonne chose pour utiliser ce fonds. Donc, maintenant que j'ai fait mon analyse bibliographique, en prenant un petit peu de recul et en analysant les problèmes, on se rend compte que c'est un sujet dispersé, avec une difficulté de vision d'ensemble. Il y a en effet beaucoup de documents, de guides existants, mais il n'y a pas de lien entre eux, de spécificité. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est mal lié, c'est le problème tout simplement. Et donc, parmi ces manques de liens, je vais vous en citer quelques-uns qui, à mon goût, était remarquable. Donc déjà, il y a un manque de documents techniques, que ce soit à destination des maîtres d'ouvrage et des constructeurs, donc des DTU, des règles d'inondation, avoir la réglementation pour faire des bâtis adaptés. Et pour les habitants, en fait, pour les habitants, aujourd'hui, on leur dit à la suite d'un diagnostic, vous devez payer, par exemple, temps pour mettre en place des bâtards d'eau, des pompes à l'intérieur. Et au final, eux, ben, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont y gagner. On leur dit de dépenser, je ne sais pas, par exemple, 500 euros. Et au final, eux, ben, ouais, 500 euros pour peut-être une inondation qui n'arrivera peut-être pas dans ma vie, ça sera ma prochaine vie à mes enfants. Donc, ils ne verraient pas pourquoi, on va dire, investir dans quelque chose dont l'événement, c'est pas quand il va arriver, on n'a pas de chiffre dessus. Donc, c'est pour ça ben, qu'il y a peu de réalisation de travaux à la suite des diagnostics aussi. Un autre problème que j'ai pu relever, c'est que malgré, on va dire, s'il existe déjà l'information acquéreur-vendeur lors de la location-vente, cette information, souvent, elle est, on va dire, négligée, elle fait une petite ligne dans le contrat, et on diminue le risque. Oui, votre bien, il est dans une zone inondable, mais ça va, c'est pas très important. Alors qu'en réalité, c'est une inondation, ben, la vitesse est souvent. Il y a aussi un manque d'incitation financière qui est provoqué par le risque CatNat avec une reconstruction identique. Bon, certes, ce n'est pas l'objectif du régime CatNat de faire la reconstruction identique, mais le système tel qu'il est, c'est-à-dire que l'expert il va arriver dans l'habitat et va expertiser, va donner exactement la somme des dommages, fait que ça reconstruit l'identique. Et le contexte aussi participe à cette reconstruction identique avec des personnes stressées, voulant retrouver rapidement leur confort habituel. Il y a également aussi un dernier point que j'ai pu relever, c'est qu'il y a une nécessité d'anticiper la catastrophe. La période de post-catastrophe n'est pas adaptée pour reconstruire mieux et dans la démarche du back better, pour faire mieux, plus vite, parce que c'est le moment où il y aura des pénuries de matériaux, donc déjà le reconstruire plus vite, c'est un petit peu compliqué. Et aussi les mentalités, comme je l'ai dit, elles seront marquées, les gens ils voudront au plus vite reconstruire sans forcément adapter mieux leur bâti. Donc pour cela, je vais vous proposer quelques pistes d'action que j'ai pu trouver intéressantes de par mes contacts et de par mes recherches. Donc la première, qui est, on va dire, la majeure, la principale, que j'ai pu m'inspirer d'une lettre de la MRN, ce serait un nouvel outil, une évaluation de la performance d'un bâtiment. Donc pour un bâtiment neuf, en fait, ça prendrait une évaluation de la résilience de ce bâtiment. Ça prendrait la forme, par exemple, du diagnostic des performances énergétiques. On pourrait le retrouver sur, par exemple, les petits papiers qu'on peut voir dans les agences immobilières. Il y aurait une notation, une échelle de 1 à 10, une lettre de AG, avoir une forme, et qui dira en fait la résilience de votre bâtiment. Pour un bâtiment existant aussi, ça permettrait en fait de prioriser les investissements en rénovation. Aujourd'hui, beaucoup de rénovations pour des bâtiments se situant en zone inondable vont dégrader la résilience. Pour donner un exemple, une personne va vouloir faire une véranda, une vitre à sa maison. Sauf que malheureusement, s'il y a une inondation, en fait, ça va provoquer des dégâts supplémentaires. Et dans ce cas-là, en fait, on pourrait par exemple y avoir un rôle assurantiel. C'est-à-dire que si la personne, elle tient vraiment à construire sa véranda, alors que le diagnostic de performance résidente, ça va dégrader votre bien, il pourrait y avoir un rôle assurantiel. Donc, s'il y a une inondation, il dirait, vous n'avez pas pris, vous étiez conscient que votre rénovation dégradait la résidence de votre bien. Dans ce cas-là, pourquoi ce serait à nous de vous indemniser alors que, c'est votre erreur, tout simplement. Donc, il pourrait y avoir un rôle assurantiel avec ce diagnostic. Et enfin, ce diagnostic, il pourrait être obligatoire lors de la location-vente. Ça remplacera, on va dire, l'information acquéreur-vendeur qui est insuffisante. Comme ça, l'acheteur, il serait réellement conscient des risques encourus avec le bien qu'il achète. Donc, ensuite, je vais vous proposer d'autres pistes d'action. C'est plus, on va dire, des adaptabilités des dispositifs existants. Donc, comme je l'avais dit, il y a un manque de documents techniques. Donc, peut-être la création d'un DTI inondation serait intéressante, mais à défaut, parce que c'est quand même, de ce que j'ai pu comprendre, quelque chose de très, très dur à mettre en place. Donc, à défaut, ça pourrait être modifier les DTI actuels pour intégrer le risque d'inondation à chacun. Bon, ça serait très long, certes, vous le reconnaissez. Ou alors, écrire simplement quelques règles sur des composantes du bâtiment pour les inondations, avec une forme à définir. Ça serait peut-être pas complet, mais ça pourrait être déjà, on va dire, une étape dans l'élaboration d'un DTI inondation. Donc, ça donnerait cela un cadre de référence utile aux professionnels de la construction, et ça permettrait également d'intégrer le risque d'inondation aux composantes du bâti. Parce qu'en effet, si les DTU, les gens avaient conscience des DTU, ils seraient contractuels, dans ce cas-là, deviendraient obligatoires et les constructeurs maîtres d'œuvre seraient obligés de les utiliser pour faire des bâtiments moins vulnérables aux inondations. Ensuite, Concernant toujours, on va dire, un peu du bâtiment neuf et des constructions, je pense à la responsabilité des constructeurs. Donc, ça serait une assurance décennale pour les constructeurs. Elle existe toujours, c'est vrai, mais elle ne couvre pas du problème du risque, des risques majeurs dans des inondations. Et donc, en fait, l'idée que je pourrais proposer, dans les 10 ans suivant une construction, si un bâti se trouve inondé, ben, ça serait peut-être au constructeur en fait, d'indemniser ses pertes et non régime CatNat. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ben, les constructeurs arrivent dans une zone qui sache qu'elle est inondable, elle a un risque, elle a un PPRI dessus qui évalue le risque, et qui se disent, bon, on va faire un bâtiment comme ça, avec un seul étage, alors ils vont à peine respecter les règles des PPRI, de toute façon, il n'y a pas de contrôle. Et donc, ben, voilà, ils ont fait leur bâtiment qui, dès qu'il y aura une inondation, va prendre l'eau, et ce n'est pas leur problème, puisque de toute façon, le régime CatNat, ils s'en occupent. Donc, ça serait peut-être intéressant de rajouter de la responsabilité pour ces constructeurs, pour ben, en fait, éviter que, tout simplement, il y ait tout le temps de la reconstruction après, et ce n'est pas forcément très intéressant. Ensuite, ben, pour continuer dans cette démarche d'adapter les dispositifs existants, le fonds Barnier, comme je l'ai dit, s'il y a un accident, pourrait être mieux utilisé et il compléterait le régime CatNat. Mon idée, ben, c'est qu'en fait, il offre une indemnisation supplémentaire pour apporter, on va dire, une réduction de la vulnérabilité. Pour donner un exemple, il a subi une inondation, un bâtiment aurait des dégâts. L'expert CatNat, il arriverait, il évaluerait les dégâts. Par exemple, il y a ce parquet, ça coûte tant de le changer. Et ce qui serait intéressant, c'est d'enlever ce parquet au lieu d'en remettre un, de mettre du carrelage. Et là, en fait, le rôle du fonds Barnier, ça serait ben, d'indemniser les surcoûts supplémentaires qui ne seraient pas de la reconstruction à l'identique. Donc voilà, ben, ça serait, on va dire, complémenter le régime CatNat avec le fonds Barnier à voir. Ensuite, je pense au dispositif anticipateur. C'est envisager ben, en amont la situation de post-crise. Ça permettrait une gestion et un relèvement de crise plus efficace avec des acteurs coordonnés connaissant leur rôle. Et ça permettrait également d'investir dans un euro prévisionnel qui serait plus intéressant qu'un euro utilisé dans une phase de reconstruction. Donc ça amène la notion de résilience économique. Donc je vais vous la définir comme j'ai pu la comprendre au cours de mon stage. Donc la résilience économique dans la construction, c'est une analyse entre le rapport des surcoûts qu'engendrerait un projet dit résilient et les pertes financières obtenues après un dommage. Cela serait chiffrable, par exemple, pour un bâtiment existant. On a la capacité de simuler les dommages encaissés lors d'une première catastrophe. Par la suite, on y applique des mesures dites résilientes. Puis, on réévalue les dommages lors d'une prochaine catastrophe similaire. Donc, en fait, cette notion de résilience économique, ça sera intéressant en fait, de s'intéresser, je répète, aux inondations avant qu'elles arrivent, en prenant en compte les diagnostics, de l'habitat, pour investir dans quelque chose, ben, un euro qui sera mieux investi qu'un euro qui servira simplement à de la reconstruction. Et pour rester, on va dire, dans cette notion de résilience économique, j'ai pensé, on va dire, à de l'analyse bénéfice pour le particulier. En fait, ça serait ben, le particulier qui ait des chiffres, tout simplement. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on lui dit, vous devez payer tant pour mettre ce dispositif en place, mais vous ne savez pas ce que vous y gagnez. L'idée, ça serait que c'est un guide ou un document avec une forme à définir, un cadre à définir, qui lui dirait, ben, tu dépenses par exemple tant et tant pour mettre ces mesures en place, et au final, s'il y a une inondation, tu y gagnerais tant et tant sur chaque composante du bâti. Donc, ça permettrait de faire, on va dire, une balance et de voir si c'est une nécessité ou non de réaliser des travaux pour le particulier, donc il se rendrait compte, lui, de l'intérêt de le faire. Donc, il y aurait peut-être plus de prise en compte, plus de réalisation de mesures à la suite de diagnostics. Et enfin, ma dernière piste d'action, ça serait ben, peut-être une structuration des types de retours d'expérience. Je vais commencer par exemple par ce réglementaire. Aujourd'hui, l'État il propose des stratégies, des dispositifs, comme par exemple les PPRI, les PATI, avec des mesures réglementaires à l'intérieur. Je pense par exemple aux Papy qui dit vous devez construire 20 cm, 30 cm, je ne sais plus, au-dessus des plus hautes eaux connues. Et au final, il n'y a pas de contrôle derrière. C'est comme si je veux faire un parallèle en immobilier. Aujourd'hui, vous voulez une route autoroutier, par exemple, vous voulez une route à 80 km/h. Là, vous mettez un radar. La construction, en fait, ça n'existe pas. On met des règles et au final, il y a zéro contrôle derrière. Donc, peut-être que l'État devrait, on va dire, prendre des retours d'expérience de ce qui se passe aujourd'hui et de voir qu'ils mettent en place des mesures, mais qu'elles ne sont pas forcément respectées. Je pense aussi au retour d'expérience après inondation, avec par exemple le CGEDD qui met à disposition des guides qui sont honnêtement bien faits de ce que j'ai pu voir, mais cependant qui ne sont pas beaucoup utilisés du fait de la reconstruction à l'identique aujourd'hui. Et les retours d'expérience après reconstruction, parce que ça n'existe pas et ça pourrait être intéressant pour servir à la suite des prochains cas, de voir ce qui a été fait avant et de peut-être pas réaliser les mêmes erreurs. Donc, pour conclure sur la partie construction, donc je vais faire un tableau pour voir sur chaque, on va dire, mes pistes d'action sur dans quoi ça rentre à peu près. Donc, pour la construction neuve, aujourd'hui, il y a les PPRI. Donc, moi, ce que je propose, c'est un diagnostic de performance à la résilience pour évaluer la résilience de notre habitat à la suite de la construction. Le DTU qui permettrait de mieux prendre en compte les inondations et la responsabilité des finales aux constructeurs pour, on va dire, essayer d'éviter de faire un peu du n'importe quoi. En ce qui concerne les constructions existantes, il y a toujours les PPRI avec les diagnostics de l'habitat. Donc là, ça appelle un petit peu à la notion de résilience économique avec l'analyse coût-bénéfice pour que le particulier intègre vraiment, on va dire, les mesures suite au diagnostic. Et des travaux préliminaires aussi pour prendre réellement compte les diagnostics. En ce qui concerne la rénovation, c'est toujours des PPRI qui mettent des mesures également de rénovation. Et donc, ce DPR-là qui pourrait avoir, on va dire, un rôle assurantiel aussi pour essayer de réguler la rénovation pour ne pas que ça dégrade la résilience. En ce qui concerne la vente-location, toujours mon DPR qui remplacerait, on peut dire, l'information acquéreur-vendeur et qui, on va dire, qualifierait vraiment le bâtiment pour l'acquéreur. Et pour finir, pour la reconstruction, c'est aujourd'hui le régime CatNat qui a tendance à reconstruire l'identique et donc qui serait supporté avec le fonds Barnier et les retours d'expérience qui permettraient de voir ce qui se fait aujourd'hui.
On va maintenant vous réaliser une conclusion en fait transversale comme on a fait pour la présentation, donc qui serait transversale à l'échelle de l'aménagement et du bâti. Donc tout d'abord, Build Back Better, donc on a vu que c'était un concept qui pouvait être intéressant et qui donnait pas mal de sens. Donc ça permet de mettre du lien entre des notions qu'on a vues dispersées. Donc on a parlé d'aménagement, de construction. On a parlé de résilience aussi et de vulnérabilité, donc ça peut être un concept fédérateur entre toutes ces notions. Mais on a vu qu'il y avait quand même des difficultés déjà identifiées à sa mise en œuvre, puisqu'il n'y a pas de cadre préalablement défini, en tout cas au niveau national. On a vu aussi plusieurs éléments clés dans nos deux parties, comme la tendance à une reconstruction à l'identique pour l'aménagement et pour le bâtiment. On a vu aussi qu'il y avait des nouvelles vulnérabilités qui ont été identifiées et qu'on essaie de traiter avec des stratégies différentes de celles de d'habitude. Et on voit aussi une absence d'incitation en fait, financière pour changer cette tendance à reconstruire à l'identique. On a aussi vu qu'avec nos pistes d'action, qu'il y avait des besoins spécifiques aux deux échelles. Donc, je ne vais pas les redire ici, mais voilà, tous les deux, on a présenté quelques pistes qui nous venaient à l'idée. Et on a vu donc avec ces pistes d'action qu'il y avait donc aussi des besoins transversaux qu'on pouvait mettre en lien. Donc on pourrait et on propose aussi donc une mise en relation plus forte entre les deux échelles, donc de l'aménagement et du bâtiment. Donc par exemple en faisant un lien entre le logiciel BIM et les SIG, puisque pour l'instant pour le logiciel BIM on a juste un bâtiment qui est implanté, mais on ne voit pas ce que pourrait faire une inondation sur ce bâtiment. Donc c'est pour ça qu'un lien entre les deux logiciels pourrait être intéressant. Aussi, donc j'ai parlé d'un fonds spécial propre à l'aménagement et Guillaume d'un fonds de la meilleure utilisation du fonds Barnier. Donc on pourrait pourquoi pas mieux lier en fait ces deux fonds pour mieux lier donc les deux échelles. On voit aussi tous les deux qu'il est important en fait d'envisager la reconstruction en amont. Et donc pour cela, de lier les acteurs, donc de la reconstruction à l'échelle de l'aménagement et à l'échelle du bâtiment, donc de les mettre autour de la table et avant donc qu'une catastrophe arrive. Et aussi, il est important de mobiliser et de faire appliquer donc ces documents d'urbanisme avec un, comme le propose Guillaume, un meilleur contrôle des règles qu'on pourrait proposer. Donc on voudrait remercier donc toutes les personnes qui ont participé à nos entretiens et qui nous ont permis donc d'étayer notre réflexion et de nous aider en fait aussi à proposer toutes ces pistes d'action. Et on voudrait aussi remercier donc notre tuteur de stage, Bernard Guézot, donc de la FPCN, qui nous a vraiment bien guidés pour aussi préparer ce webinaire. Voilà, merci pour votre attention et donc vous pourrez nous contacter, on vous a mis nos adresses mail si vous avez d'autres questions après ce webinaire.
Merci beaucoup Guillaume et Elvina pour cet exposé très complet qui montre effectivement à la fois l'intérêt du concept Build Back Better et en même temps les enjeux, tout ce qui reste à faire pour progresser véritablement sur cette thématique et pour le cas de l'inondation qui est ici traité. Maintenant, il est 11h22, donc il nous reste un temps, j'espère au moins jusqu'à midi, pour une discussion, qu'on ait des interventions, des réactions sur ce que vous avez dit, hein, des compléments qui puissent être apportés, voire des façons de voir différentes. Et comme je le disais en introduction, je vais proposer tout d'abord à Ludovic Fettre, s'il veut bien, pour lancer un petit peu, donner envie aux autres d'intervenir également ensuite. Si Ludovic, tu veux bien déjà nous faire un retour par rapport à ce que tu viens d'entendre. Par rapport au territoire particulier qu'est la région parisienne qui est effectivement oui. exposée aux inondations. Donc je te passe la parole Ludovic, si tu veux bien.
Merci, tu m'entends? Vous m'entendez?
Oui.
Pas de problème. Oui, donc Ludovic Fettre, effectivement Bernard m'a demandé, alors c'est pas réagir complètement non plus sur l'exposé, c'est peut-être aussi comment c'est réflexion du Build Back Better. Alors d'abord, remercier Edwina et Guillaume de beaucoup de choses. Ça me renforce.
Excuse-moi Ludovic, oui. J'ai oublié de préciser qu'il y a eu.
Je vais y revenir. En tout cas, justement, je voulais revenir sur ces questions. Dire en tout cas que ça me conforte moi beaucoup plus dans l'idée de réflexion sur l'aménagement du Before Better que du Back Better, et je vais y revenir aussi. Mais je pense que c'est dès maintenant qu'il faut engager les choses et c'est pas plus tard. Effectivement, je suis responsable des études de risque aménagement à l'Institut Paris Région. Il y a un institut d'aménagement et d'urbanisme de la région de France où on travaille sur ces questions de risque de façon depuis une petite quinzaine d'années dans le lien aménagement risque sur un territoire qui est un petit peu un cas extrême qui est parisienne, de la région Île-de-France dans sa globalité, et avec un risque majeur, puisque une inondation de la Seine, en tout cas sur le bassin de la Seine, constituerait certainement aujourd'hui la principale catastrophe qui pourrait survenir sur le territoire national métropolitain en termes d'enjeux, en termes de complexité, etc. Et ça nous renforce, en tout cas, ça nous pousse depuis quelques années dans un contexte très particulier de la région Île-de-France, de Paris, à réfléchir sur comment on intègre finalement cette question du risque inondation et comment surtout on compose avec le risque inondation aujourd'hui dans l'aménagement du territoire. Composer, c'est changer sur le risque qui est perçu quand même par la plupart des acteurs de l'aménagement, des décisionnaires, des collectivités, comme une contrainte. On essaie de regarder un peu différemment la question du risque. Très très rapidement, c'est les enjeux, c'est pour nous aujourd'hui une extrême complexité. C'est d'abord des enjeux inondables, c'est 850 000 personnes potentiellement catastrophes majeures. C'est, et là, je... Oui, Ça remarche? Excusez-moi, est-ce que ça fonctionne?
Oui, c'est parce qu'on vous entend un peu saccader de temps en temps. Mais après, c'est pas compliqué de changer.
Ah, d'accord. Je vais faire attention à pas aller trop vite. Et en tout cas, c'était de réfléchir sur cette question de vulnérabilité aussi que vous avez évoquée. Je crois que la vulnérabilité d'un territoire dépasse largement la simple exposition du territoire au risque, et en l'occurrence l'inondation. C'est aussi l'importance des réseaux, c'est son fonctionnement, c'est sa dépendance au territoire voisin. Et on sait aujourd'hui que sur une catastrophe ou un événement, c'est pas seulement les zones inondées qui sont touchées, mais c'est les territoires beaucoup plus larges qui sont liés dans leur fonctionnement. C'est par exemple des questions d'énergie, de l'alimentation en énergie, de réseau de transport, c'est des questions de services publics qui ne seront peut-être pas alimentés, etc. Donc ça renvoie à la question de la vulnérabilité quand même un peu plus complexe sous la simple exposition. Ce qui nous fait nous parler de vulnérabilité systémique et les catastrophes importantes, ou en tout cas ce type de catastrophe, il y a aussi la question de la gestion de crise. Quand on sait gérer à l'échelle nationale des crises de 5 000, 10 000 personnes peut-être, je ne suis pas certain qu'on ait l'expérience de 100 000, 200 000, 300 000 personnes à gérer, et je pense que la gestion son vulnérabilité supplémentaire. Voilà, avant de rentrer un peu plus sur la réflexion sur l'huile, c'est rappeler qu'il n'y a pas une inondation mais des inondations. Donc vous appréhendez la question, vous avez évoqué plusieurs phénomènes, le ruissellement en France, les crues par des grands fleuves, l'inondation littorale, donc c'est des phénomènes qui sont différents et dont les impacts sont différents sur les différentes composantes du risque. De la même façon, il n'y a pas un territoire, il y a des territoires. Et la façon d'aborder la vulnérabilité des territoires, vous ne pouvez pas comparer un territoire rural à l'agglomération métropolitaine de 10 millions d'habitants dans ses enjeux. Ce n'est pas la même chose. Et j'aime, moi, rappeler, puisqu'on travaille sur le risque et l'aménagement, qu'il n'y a pas de métropole, de grande métropole sans fleuve et sans eau. La grande métropole dans le monde se sont construites autour du fleuve. La question, c'est qu'on a peut-être oublié pendant longtemps qu'on avait vu ces phénomènes, parce que souvent, les a oubliés, ce qui est arrivé pendant très très longtemps, et que pour autant le fleuve fait partie de la ville et qu'il faut, il faut travailler avec lui. Tout ça pour dire aujourd'hui, par rapport à ce sur lequel je vais très très vite, comment on essaie de prendre en compte le Build Back Better. Très sincèrement, j'ai du mal aujourd'hui à travailler sur le Build Back Better parce que je pense que le jour où arrivera une catastrophe, il y aura de telles urgences, à la fois sociales, économiques, il y a des questions de droit de l'urbanisme, des droits de la propriété. En tout cas, et là, je suis à l'inflexion de l'échelle de l'aménagement, pour me faire dire que les urgences politiques, les urgences sociales font qu'on aura beaucoup de mal à mettre en place le Build Back Better. Alors, ça dépend de l'échelle de l'aménagement, qui est celle de est-ce qu'on relocalise, est-ce qu'on localise différemment des enjeux stratégiques, économiques, de population, des infrastructures. Je pense que ce sera extrêmement compliqué. En revanche, il faut absolument, et le faire dès maintenant, c'est faire du before better, et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est sur une agglomération où, depuis 20 ans, on a construit 60 000 logements en zone inondable, au cœur du Grand Paris, au cœur de la métropole. On en a construit près de 45 000, plus de 45 000 postes PPR. Donc, les PPR ne suffisent certainement pas à faire de la résilience. Ils suffisent peut-être à faire un duel parce qu'on sera mieux protégé, mais collectivement, on n'est pas obligatoirement mieux protégé. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement aborder ces questions de before better à toutes les échelles. Crochet le de résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la résilience, elle est plus globale que ça. Elle n'est pas que liée à la construction. Elle se réfléchit sur de l'organisationnel, de la continuité d'activité. Et elle doit se porter sur à l'échelle de notre territoire, en tout cas, et des territoires d'une façon générale, sur différents points. C'est là, on fait de la résilience à l'échelle d'un travailler sur la prévention, mais vous anticipez aussi le temps de la gestion de crise et vous anticipez surtout le temps du post-crise et du retour à la normale. Et ça, ça se fait à l'échelle d'un territoire en mettant tous les acteurs autour de la table, que chacun comprenne leur vulnérabilité et dans un engagement commun. En termes d'aménagement, c'est travailler à celle de la construction, c'est travailler à la ville et puis c'est l'action. Et aujourd'hui, quand vous faites de la planification sur des enjeux aussi importants que grandes métropoles, on est sur des grands arbitrages d'artificialisation, de non-artificialisation, de densification des territoires, de mutation, etc. C'est comment on travaille sur les choix stratégiques dans l'aménagement d'aujourd'hui. Et puis, je suis assez des notions de résilience, elles doivent être les domaines et dans toutes les politiques publiques à l'échelle d'un territoire. C'est pas que de l'aménagement, c'est aussi, vous faites, à l'échelle d'un territoire, vous faites des engagements dans le social, dans la diversité, des éléments un peu plus stratégiques, des notions de risque, dans tous ces domaines. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'ensemble. C'est pour lancer le débat. Et je retiens juste aussi une chose d'aménagement, c'est le lien document d'urbanisme. Je suis assez surpris aujourd'hui des PPP qui existent, et heureusement qu'ils n'existent pas, la situation serait peut-être bien pire. Mais le PPRI n'est pas un document d'aménagement, c'est un document qui émet des règles constructives éventuellement à certaines échelles. Il est très bien pour le futur, il est malheureusement pas très très bon pour l'existant. Et je crois qu'une des grosses difficultés, c'est qu'il est pris comme une certitude. Et c'est qu'on lit aujourd'hui, document PPRI, alors PPRI auquel il est sur la culture du risque, sur la gestion de crise, mais on n'a surtout pas réussi à le traduire dans les documents d'urbanisme pour faire évoluer finalement à l'échelle d'un document d'urbanisme la question du risque d'inondation, en l'occurrence. Voilà. Donc je pense qu'il y a à faire. Et dernière remarque, parce que vous avez évoqué un certain nombre de choses, vous avez parlé de certains territoires devenus résilients. Je ne pense pas que la résilience se c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un territoire, il y a de multiples menaces qui peuvent venir. Enfin, il est sensible à différentes menaces. Ça peut être l'inondation, mais même pour l'Île-de-France, il y en a beaucoup d'autres. La pandémie a, par exemple, été un événement. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas décréter. Par contre, on peut s'engager dans des processus de résilience. Parce que, de toute façon, vous le savez, enfin, vous le savez, quelque part, votre résilience, vous êtes capable de l'avoir seulement après un événement catastrophique, en tout cas, à travers le retour d'expérience. Donc, je préfère le terme de territoire de proximité aujourd'hui. Voilà. Très rapidement pour quelques idées et quelques réflexions sur le Build Back Better ou plutôt le Build Effort Better.
Merci beaucoup, Ludovic. Très, très intéressant. Le passage en revue, tu as fait très rapidement avec beaucoup de sujets, effectivement, sur lesquels on aura envie de revenir. Je vais passer la parole à la salle, si vous me permettez l'expression, même si c'est une salle immatérielle, et demander si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole.
Il y avait quelqu'un dans les commentaires. Je crois.
Allez-y, Régis Tepo avait fait un commentaire. Régis, si tu peux le faire de vive voix. Et si d'autres personnes veulent prendre la parole, allez-y. L'ordre n'a pas d'importance. Hein. Le premier qui prend la parole, c'est parfait.
Allô ?
Audrey, oui.
Oui, bonjour à tous. Merci pour cette intervention qui a été très, très claire et très intéressante. Moi, je voudrais juste partager un peu l'expérience de Calixis dans le domaine de la vulnérabilité du bâti. Donc, Calixis, on est une association de loi 1901 qui travaille sur l'étude de la vulnérabilité du bâti et de ses occupants face aux risques de son quotidien et notamment les risques d'inondation. Donc, on réalise des diagnostics de vulnérabilité auprès des particuliers, des acteurs économiques et des collectivités, notamment sur les bâtiments publics. On a réalisé aussi un autodiagnostic juste pour partager notre connaissance et notre retour d'expérience. On parlait d'analyse coût-bénéfice. Nous, on s'aperçoit qu'on peut faciliter cette prise de conscience auprès des bénéficiaires en étudiant cette analyse coût-bénéfice ou du moins en publiant dans les rapports de diagnostic cette analyse coût-bénéfice au regard de périodes de retour de crue. C'est intéressant ça, de mettre ça en avant pour, par exemple, un particulier qui souhaiterait mettre en place des bâtards d'eau face à des crues décennales, par exemple, où on lui montrerait que c'est beaucoup plus pertinent de mettre en place ce genre d'équipement au regard de cette période de retour de crue. On met aussi en avant une vulnérabilité résiduelle pour montrer aussi que le risque zéro n'existe pas et qu'effectivement, il y a encore une vulnérabilité qui est présente. Après, c'est peut-être des questions de comportement qui faciliteront peut-être la gestion de ce risque. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, échanger sur l'incitation, peut-être aussi financière, on s'aperçoit que sur des territoires qui sont couverts par des opérations d'amélioration de l'habitat où on a un financement dans le cadre de l'ANA. Donc, ce financement sous condition de ressources peut venir compléter le financement dans le cadre du fonds Barnier et peut avoir donc une incitation un peu plus importante auprès des particuliers qui souhaiteraient s'engager dans des travaux. Donc ça, c'est pas négligeable de coupler ces financements. Et puis, dans l'étude de la résilience aussi du bâti et de ses occupants, je parle toujours d'occupants parce que la résilience du bâti, comment dire, ne va pas sans un bon comportement de ses occupants. Donc, il y a l'aspect aussi psychologique à prendre en compte, à la fois dans l'évaluation de la vulnérabilité du bâti, mais aussi suite à diagnostic, on s'aperçoit que les particuliers ont vraiment besoin d'être assistés, d'être accompagnés dans une démarche de réduction de vulnérabilité, notamment aussi dans une démarche de montage de dossiers de demande de subvention. Et puis, on a d'autres problématiques à prendre en considération. Alors, je parlais d'amélioration énergétique, mais on a aussi d'autres problématiques, comme le maintien à domicile, avec des populations aujourd'hui, on a une population française qui est vieillissante. Donc, la problématique du maintien à domicile peut éventuellement aussi se coupler à ces problématiques du risque d'inondation et viendrait comme ça favoriser une certaine résilience du bâti et de ses occupants. Alors après, j'avais d'autres remarques, si je peux me permettre. On parle de diagnostic obligatoire dans certains cas. Quid aussi de la révision des PPR où on n'a pas forcément d'obligation de réaliser des travaux et pourtant on a peut-être aussi des territoires qui sont amenés à vivre des inondations ou qui seront amenés à vivre des inondations un peu plus régulièrement. Donc là, on peut éventuellement accompagner hein, des habitants désireux de réaliser le diagnostic, mais il y a encore tout ce travail aussi de révision de PPR avec des mesures qui pourraient être éventuellement rendues obligatoires. Et puis voilà, et puis j'avais voilà, après je reste à disposition d'Edwina et de Guillaume si voilà, on peut échanger par la suite de cette présentation qui a été très intéressante. Je vous remercie.
D'accord, merci beaucoup pour ces informations.
Oui, Christian Saint-Chudrian, je veux bien intervenir.
Vas-y, Christian.
Oui, voilà, je voulais faire démarrer la vidéo. Pardon, oui. L'exposé est très, très riche et très vaste. Il amène des tas de questions, donc c'est difficile un petit peu de traiter tout ça. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Audrey pour Calixis, avec l'exemple très concret de la faute que j'ai vécue ces jours-ci, au sortir du déconfinement, où on voit qu'il y a une reprise des opérations de réduction de la vulnérabilité, donc des constructions de pièces de survie, d'aménagement, de bâtards d'eau, dans le bon sens. Et ça m'amène à faire des remarques donc, qui vont dans le sens de ce que disait Audrey, et une remarque un petit peu négative par ailleurs. En fait, on voit que les diagnostics, donc qu'est-ce qui a déclenché cette reprise dans le bon sens de protection et de reconstruction en mieux. D'abord, c'est le financement. Et ça permet de rejaillir sur la proposition qui a été faite d'étendre au Build Back Better le financement par le fonds Barnier. On voit que le fait d'être passé à 80% pour la prise en charge des mesures de réduction de vulnérabilité au lieu de 40% a été un élément très important, un élément un petit peu déclencheur. Le deuxième point, c'est le besoin de diagnostic et surtout d'accompagnement des populations où les gens qui ont monté ces dossiers ont été encouragés, confortés par l'accompagnement et également par la bonne réactivité des services de la DDTM. Donc, c'est un aspect psychologique, administratif et de guidage. Donc, ça, c'est positif. Et le point négatif, malheureusement, que je constate, et qui est une question essentielle, c'est la mise en œuvre technique, parce que ce qui compte en finale, c'est quand même qu'on réalise bien les opérations d'amélioration, de mieux construire. Et on se rend compte au niveau local qu'on est confronté à des metteurs en œuvre, donc des petites sociétés Et c'est un peu là où ça pêche. Et en fait, c'est actuellement là où je rencontre les remarques négatives, où on tombe sur des tas de points de mise en œuvre, de qualité, qui amènent des perturbations justement pour les populations qui sont en train de réaliser ces travaux. Donc c'est un petit peu le béaba, quelle est la qualité de la mise en œuvre. Alors il faut, on a parlé de normes, de DTU, etc. Malheureusement, localement, on est confronté à des petites sociétés qui sont du style artisanal et qui n'ont pas le temps ou négligent ou ne sont pas formées à la bonne mise en œuvre, justement, de construire. Donc, si on construit mieux, il faut vraiment le faire bien avec, et éviter des failles, justement, qui peuvent être regrettables pour le futur. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, je rebondis sur l'aménagement et j'étais très sensible à l'aspect de schémas mentaux. Et ma question est de dire comment on peut faire pour que les schémas mentaux évoluent dans le bon sens, aussi bien au niveau des populations qu'au niveau des élus. Donc il y a un certain nombre de collectivités territoriales qui se posent la question sans problème justement de l'aménagement et très sensible à cette notion de plan, d'avoir un programme qui a été dit, qui a été notamment souligné par l'intervenant concernant la Seine. Mais c'est le problème entre la bonne vision à long terme et malheureusement des fois les réalités à court terme. Donc on dit il faut bien aménager, il faut d'abord ne pas se mettre en danger et donc avoir toujours en tête cette démarche du long terme. Donc malheureusement, il est tentant, et là on est en période où on sort d'élections municipales, il est tentant bien souvent d'avoir des réalisations qui sont plaisantes et à court terme, alors qu'elles devraient intégrer l'ensemble des éléments d'un aménagement résilient, conscient du réchauffement climatique et justement soucieux de la protection de la vulnérabilité. Donc voilà cette question. Parce que notamment j'ai noté une réaction d'une collectivité territoriale face au risque de ruissellement qui est en matière d'inondation un risque très important actuellement, qui est de dire oui, les collectivités territoriales devraient pouvoir aménager leur territoire en intégrant le risque de ruissellement. Donc ça c'est une bonne chose, de bonne prise en considération, en compte de ce risque de ruissellement, mais il y a une remarque que je note et qui est de dire, la phrase était « sans être trop entravé par les exigences législatives ». Donc le « trop » amène un petit peu une porte ouverte à l'interprétation. Ma réponse est de dire « non, il faut tout simplement raisonner vers le futur de façon optimale, en intégrant tout, les contraintes sociales, économiques et également… De construction améliorée et résiliente. Voilà, donc je termine là ma longue intervention.
D'accord. Moi, j'aimerais répondre à la question de Sarah Boirin qui est concernant les solutions fondées sur la nature. Et est-ce que le concept Build Back Better peut être lié à cela? Donc, à l'échelle du bâtiment, c'est un petit peu complexe. La seule possibilité que j'ai envie de dire, c'est par exemple ce qui existe, toitures végétalisées, les toitures comme ça. Bon, après, c'est plus intéressant, je pense, les solutions fondées sur la nature à un peu plus grande échelle, par exemple celle du quartier. Je vous avais montré l'exemple du quartier de Gouviette aux Pays-Bas qui faisait des sous-quartiers avec beaucoup de place entre eux, qui permettait la perméabilisation des sols avec beaucoup de place pour l'eau et donc pour la nature. Tu as quelque chose à rajouter, toi, Edvine?
Je suis d'accord aussi que en essayant d'avoir des espaces publics comme les cours Oasis à Paris, où on essaye de rendre toutes les cours des écoles perméables et ainsi les rendre inondables en cas de crue, ça peut être une solution en fait pour répondre aux risques inondations, mais bien sûr que aux risques ruissellement et pas pour les risques de crue plus importants.
C'est vrai. Donc, pour répondre, oui. Enfin, si vous voulez intervenir maintenant, Sarah, Madame Boirin.
Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, effectivement, ça me semble plus approprié à l'échelle d'un quartier, ce type de solution. Mais je me demandais si justement un peu il y avait un lien ou pas, en tout cas dans les soit les analyses bibliographiques que vous avez eues ou dans les entretiens, est-ce que cette notion de solution de fondation nature ou pas forcément le concept labellisé comme tel, mais les notions de renaturation, ou en tout cas de redonner plus de place à la rivière, par exemple, est-ce que c'est des choses que, vous semblent commencer à un peu plus monter dans le discours des acteurs de l'aménagement ou de la reconstruction, que ce soit en France ou à l'international? Est-ce que vous sentez qu'il y a un infléchissement ou qu'on en est encore loin? Comment est-ce que vous sentez un peu les choses par rapport à ce type de solution? Merci.
Donc, vu que je me suis plutôt centrée sur la réponse d'aménagement, j'ai essayé de répondre. Mais oui, en tout cas, j'ai vu en tout cas à l'international et notamment avec l'exemple des Pays-Bas que oui, la place des solutions fondées sur la nature, ça a vraiment beaucoup grandi. En France, c'est encore, on voit notamment quand même avec plusieurs projets comme avec les ateliers nationaux ou avec certains guides du CEPRI, on voit qu'on essaye de trouver des solutions alternatives aux solutions grises, donc aux digues et aux barrages. Donc on essaye de les trouver, mais on voit quand même qu'en France, en tout cas, il y a encore une très grosse croyance que les digues et les barrages peuvent protéger des inondations. Donc peut-être que oui, en Build Back Better, ça peut être intéressant donc, de réfléchir à ces solutions alternatives, puisque comme on l'a vu avec les exemples de rupture de digues, ben, on commence à prendre conscience que le parc français de digues n'est pas si fiable que ça. Si quelqu'un veut rajouter après quelque chose, il n'y a pas de problème.
Je pense qu'on peut évoquer peut-être aussi la compétence GEMAPI qui se met en place depuis quelques années. Donc c'est aussi une compétence relativement récente à l'échelle des problèmes qu'on évoque. Mais la compétence GEMAPI, c'est aussi une façon de relier des réponses environnementales à des problèmes de protection contre les inondations. Donc je crois que les maîtres d'ouvrage GEMAPIens, comme on dit, vont être aussi dans les prochaines années des vecteurs de la promotion, en tout cas des solutions fondées sur la nature dans le cadre de cette compétence nouvelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole?
Ben, je pense qu'il y avait une question qui vous était destinée de Madame Azous concernant la FPCN. Comment on pourrait faire pour impulser des vraies propositions, des réponses?
Est-ce que Madame Azous veut prendre la parole pour formuler sa question? J'ai du mal à la voir à l'écran. Ah oui, ça y est. Je vois pas bien. Si Madame Azous veut formuler sa question pour la FPCN, ce serait parfait.
Moi, au nom de la Chambre d'agriculture, je voudrais parler on parle beaucoup en milieu urbain, mais en zone agricole, qui est une des zones les plus mises en danger par ces inondations. Je peux parler ou vous m'entendez là? Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Donc, je suis un représentant de la Chambre d'agriculture du Gard, où je travaille sur la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles face aux risques d'inondation, notamment au travers d'un plan Rhône qui a été élargi au plan Rhône-Saône, et où l'ensemble de nos aménagements sont soumis à analyse de coûts-bénéfices avant subventionnement par l'Europe, l'État et la Compagnie nationale du Rhône. La problématique que l'on a en zone agricole, c'est qu'il y a une réglementation des plans de prévention des risques d'inondation qui est au moins dans le département du Gard très restrictive et qui s'apparente plus à une de manière dogmatique à l'application d'un principe de précaution plutôt qu'un principe de prescription avec possibilité de construire en prenant en compte le risque d'inondation. Alors certes, la rédaction n'interdit pas tout, mais l'application du principe de prescription est tellement sens strict, que ça s'apparente à un principe de précaution. On peut regretter à ce niveau-là, alors je ne sais pas si c'est général sur l'ensemble des départements, qu'il n'y a pas de co-construction des règlements du PPRI avec les acteurs du territoire, mais seulement une rédaction de manière unilatérale par les services de l'État. On comprend bien au niveau agricole que la priorité, c'est la préservation des personnes, mais les services de l'État ne peuvent pas s'approprier cette thématique-là, vu qu'avant d'être agriculteur, on est homme et femme et on a une famille, et évidemment, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et on voit qu'il y a souvent des différences de traitement d'un territoire à un autre sur le niveau de la crue de référence qui est prise en compte. Alors je suis très intéressé par vos travaux et voir ce qui se fait ailleurs, ce qu'on a peu tendance à faire en France, où on a une vision un peu restrictive territoire par territoire, et même à l'échelle du plan Rhône, où l'on travaille de l'Ardèche, Ardèche, Drôme, Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône, la réglementation des PPRI est totalement différente. Si vous prenez un règlement PPRI en rive droite du Rhône, c'est pas le même qu'en rive gauche du Rhône. Les gens, donc, d'où une certaine incompréhension de la part par des exploitants. Nous, on privilégie l'application d'un principe de prescription qui permettre, sans mettre en danger la vie de personne, mais c'est justement pour sécuriser soit du cheptel, soit du matériel, soit des intrants, de permettre une possibilité de construire tout en prenant en compte le risque existant pour pas arriver à une désertification de ces territoires et à une sanctuarisation de ces cibles. On a montré dans le cadre du plan Rhône qu'on pouvait conserver une agriculture diversifiée à partir du moment où on y mettait les moyens pour réduire sa vulnérabilité. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on n'avait pas parlé de l'agriculture tout au long de le débat. Merci.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, c'est important de parler de l'agriculture, qui n'a pas été... c'est vrai que le sujet est très, très vaste, ça n'a pas été traité. Et puis, vous avez évoqué effectivement la question toujours très délicate de l'ouverture qui peut être faite dans un cadre réglementaire, effectivement, à la construction en zone inondable constructible. Qu'il puisse y avoir des différences entre les territoires, c'est éventuellement souhaitable, à condition bien entendu que ces différences soient justifiées d'un territoire à l'autre, que le contexte justifie qu'on ait des différences de traitement. Mais effectivement, là, sur cette question de l'interface entre la réglementation et la possibilité de faire Build Back Better, c'est effectivement un sujet où le dialogue entre les acteurs doit primer pour arriver à une solution qui soit acceptable par toutes les parties prenantes. En tout cas, merci pour... On ne va pas régler le problème...
Bernard, est-ce que je peux juste dire un mot là sur
votre intervention? Oui, qui c'est qui
est Oui, Jérémy, c'est Jérémy Sabatier. Je voulais juste rajouter un mot là-dessus parce que, je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites juste à présent là sur l'agriculture. Par contre, c'est pas tout à fait vrai quand même de dire que les règlements sont écrits de manière unilatérale par l'État, puisque dans le cadre de l'élaboration des PPRI, il y a une concertation qui est menée avec les collectivités territoriales, donc les mairies notamment, et les agglos et les communautés de communes. Alors c'est vrai que peut-être que les chambres d'agriculture sont pas forcément concertées en amont. Ceci dit, donc les PPRI sont soumis à enquête publique, donc il y a au moins ce moment-là où les chambres d'agriculture peuvent se manifester. Et sinon, je rejoins ce constat, parce que nous, on a réalisé une étude sur Bordeaux Métropole où on a fait justement sur l'agriculture en zone inondable un benchmarking des réglementations PPRI, et c'est vrai qu'il y a des grosses disparités selon les départements dans les formulations des règles, etc. Et après, il y a donc en fait aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est en fait donc la doctrine PPR de l'État pour l'instant était dans des circulaires, et ça a été changé récemment, donc en 2019, avec un décret, un arrêté PPR inondation. Et ceci dit, effectivement, le législateur a souhaité garder une certaine flexibilité, c'est-à-dire que si vous regardez le décret et les arrêtés, il y a les grands principes qui sont effectivement inscrits aujourd'hui dans le Code de l'environnement, mais tout en laissant une certaine souplesse d'adaptation au territoire. Donc ça, lors de l'enquête publique, nous, on a essayé de suggérer à l'État qu'il précise un peu plus, effectivement, les règles générales qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, mais ils ont souhaité garder cette flexibilité d'un territoire à l'autre. Et une fois qu'on a dit ça, donc en fait, il faut bien garder à l'esprit que la doctrine de l'État, c'est que les territoires agricoles sont non constructibles par principe. Deuxième principe, c'est que les activités existantes en zone inondable peuvent perdurer. Et troisième principe, c'est aussi qu'il n'y ait pas de nouvelles habitations. Et après, il peut y avoir des locaux avec du personnel en zone inondable quand il est strictement nécessaire à la préservation de l'activité agricole, notamment par rapport aux questions d'élevage et d'agnelage et de naissance dans les trous.
Merci, Monsieur Savatier. Je rappelle que vous êtes au bureau ISL, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc le bureau d'études ISL. Merci pour votre contribution. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir sur l'un ou l'autre des sujets qui ont été abordés ou qui ne l'ont pas été abordés?
Bonjour.
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 Je voudrais juste moi présenter un petit peu ce qui s'est fait à l'étranger. J'ai étudié au Québec et je peux par exemple parler du fait que pour ce qui concerne le Saint-Laurent, il y a des projets qui ont été mis en place au niveau de, je crois que c'est de la Haute-Gaspésie et un peu juste avant dans la région de Rimouski. J'ai été étudiant à l'université de Rimouski et on a eu beaucoup de cas d'inondations liées au Saint-Laurent. Il y a des projets qui sont actuellement mis en place pour éviter, je dirais, tout ce qui est reconstruction à l'identique et reconstruction près du littoral. Ça s'est fait grâce à une mise en place de l'État sur un fonds de, je ne sais plus combien, 60 ou 80 millions de dollars canadiens. Et ils sont en train, au fur et à mesure, ils sont en train d'essayer d'aider les populations à reconstruire ailleurs et pas juste à côté du fleuve pour éviter tous les problèmes récurrents qui reviennent, parce que c'est des inondations qui sont assez récurrentes. C'est très dur à mettre en place. Ils se retrouvent, c'est ce qui a été dit, parce qu'on a été avec des municipalités qui nous ont expliqué que c'est très dur à mettre en place parce que c'est des populations qui ne veulent pas bouger, qui veulent garder leur cadre de vie, qui veulent garder leur paysage. Il y a énormément de problèmes parce que, pareil, c'est des habitants qui sont très résilients et très indépendants. La plupart, ils n'attendent pas la municipalité pour mettre en place des moyens de résilience. Ils installent eux-mêmes les pompes. Ils sont très résilients sur tout ce qui est les constructions. Ils essayent de par eux-mêmes de rehausser leurs maisons, leurs habitations, de protéger que ce soit leur terrain ou de faire des choses pour éviter la... comment on appelle ça pour éviter l'affaissement de leur terrain. Ils font tout un tas d'aménagements aussi bien naturels que artificiels pour protéger. Et je pense que ils ont un bon moyen d'éviter des gros problèmes sur leurs habitations, et ils sont très très résilients de base. C'est quelque chose que j'ai beaucoup moins vu en France sur les projets que j'ai fait et sur les études que j'ai eues, par exemple sur le retour de la tempête Xynthia ou dans les retours de rapports ministériels, les populations continuent à ne pas vouloir s'investir plus. Les projets peut-être de l'État, je pense, français, sont peut-être pas aussi assez, pas forçants, mais je dirais assez durs pour un peu plus forcer les habitants à éviter de rester dans des zones aussi dangereuses. Je crois que pour Xynthia, il y a encore des zones qui étaient à l'époque des zones noires qui sont toujours habitées par des gens, par exemple. Et il n'y a pas de restrictions assez fortes de la part de l'État pour éviter qu'on reste dans des endroits aussi dangereux pour les gens, parce que j'ai l'impression que toujours le risque n'a l'air d'être que pour les autres et jamais pour soi-même.
Merci Monsieur Guérimand, en tout cas au moins pour ce témoignage sur le Québec et sur ce qui se fait là-bas. Effectivement, nous avons vu dans l'intervention d'Edwina en particulier qu'il y avait pas mal de références à ce qui se faisait à l'international, et on aurait besoin effectivement de plus fréquemment étudier ce qui se fait dans d'autres pays pour déjà comparer avec ce qu'on fait nous, trouver de nouvelles idées et élargir un petit peu notre réflexion en France. D'autres intervenants ?
Oui, Jérémy Sabatier à nouveau. Je voulais juste compléter parce qu'à un moment donné, on a fait mention des digues et donc dans l'exposé, hein, donc, et de ce que j'ai compris, vous aviez l'air de dire que aujourd'hui, on fait moins confiance aux digues pour la résilience. C'était un peu votre message, si j'ai bien compris. Je voudrais juste nuancer, puisqu'effectivement, comme ça a été évoqué, donc il y a la nouvelle compétence GEMAPI qui est attribuée aux EPCI. Et cette compétence-là, du coup, permet aux GEMAPIens de demander l'autorisation de systèmes d'endiguement. Et quand ces systèmes d'endiguement, en fait, sont conçus pour résister à un niveau de protection qui est supérieur ou égal à l'aléa de référence du PPR, la nouvelle réglementation PPR de 2019 pardon, permet de prendre en compte ces endiguements dans la cartographie des PRI. Et par ailleurs, donc il y a des évidemment que les zones protégées restent par principe en zone inondable. Ceci dit, la nouvelle réglementation PPR définit des exceptions de constructibilité dans les zones protégées par ces systèmes d'endiguement là.
Moi, j'aimerais répondre. Vous m'entendez ?
Oui.
J'aimerais répondre à la question de Ludovic Fettre. Bon, c'est simplement mon avis de ce que j'ai pu faire. Il est peut-être et même sûrement pas juste ni complet. Concernant les maîtrises d'ouvrage, est-ce qu'on peut dépasser un petit peu les PPRI et vraiment prendre en compte la résilience ? Ça peut se faire si, par exemple, on prend déjà du renouvellement urbain. Moi, je prends l'exemple du quartier Matra-Romorantin. Après, simplement pour l'habitat, je pense que ce que j'avais dit concernant le DTU inondation, ça permettra en fait de clarifier les politiques qui se passent au PPRI. Je ne pense pas que c'est en fait le rôle d'un PPRI de donner ces mesures de réglementation sur la construction, mais plus le rôle d'un document tel un DTU ou d'un document avec un format à définir de clarifier ce type de réglementation. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, si vous avez envie de réagir à mon intervention, ou quelqu'un d'autre.
Non, mais je peux réagir, Ludovic Fett, donc à nouveau, c'est juste pour expliquer que sur un certain nombre de grands projets, je ne parle pas que de l'habitat, ça ouais. peut être, est-ce que ça fonctionne ? Oui. C'est qu'à un moment, quand vous construisez en zone inondable, et notamment en renouvellement urbain, on va avoir, il y a des choix à faire, vous pouvez construire un équipement stratégique, peut-être pas un hôpital parce que là c'est vraiment très très stratégique, mais vous avez peut-être besoin d'un collège, d'une école, etc. Et c'est juste dépasser le PPRI, que ça soit la maîtrise d'ouvrage public qui demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'aménagement il est quand même très très réglementé par les PPR, qui se limite finalement à des normes de construction, de sécurité des personnes pour l'habitat. Il n'y a pas d'intégration de la continuité d'activité, du temps de reprise à la normale, etc. Et je prends l'exemple d'un collège que j'ai vu construit la semaine dernière à Vitry, où ils ont intégré dans la conception du bâtiment, ils ont fait une analyse de leur vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité du bâti, etc., des grosses œuvres, mais il y a aussi une analyse du fonctionnement d'un collège qui montre que pour redémarrer très très vite, alors qu'aujourd'hui on considère qu'un collège qui a été construit dans une inondable, qui serait inondé, des départements ont fait les études, ont montré qu'il fallait 18 mois pour le remettre en état. Ils ont conçu un collège pour que ça démarre peut-être en un mois. Et ils ont analysé un petit peu les fonctions d'un collège, ils ont tout monté, tout relevé de la cantine scolaire, des équipements de ce type-là, ont été montés systématiquement au premier étage. C'est-à-dire que si on s'était seulement limité à un DTU
et un PPR, ces questions de réflexion n'auraient pas été pensées dans la conception de la structure. Donc, il faut un petit peu dépasser ces questions de PPRI pour s'interroger comment et pourquoi on est vulnérable, le comprendre, et à partir de là, commencer à s'engager dans des processus un peu plus innovants. Voilà.
D'accord.
Bien, il est 12h05, une bonne séance de 2 heures environ. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention, quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose avec plaisir. Alors, en tout cas, vous avez les coordonnées, mail de,
oui.
Et puis de la FPCN, donc vous pouvez contacter Guillaume et Edwina. Oui, quelqu'un.
Oui, j'arrive, je vous rejoins. J'en ai pour 5-10 minutes.
Je pense qu'on a une petite interférence. Donc oui, vous avez les coordonnées, enfin vous pouvez les avoir en tout cas par la FPCN de Guillaume et d'Edwina. Donc vous pouvez bien sûr échanger avec eux sur cette thématique. Et comme je le disais tout à l'heure, avec Roland, nous souhaiterions bien entendu qu'à l'issue du stage de Guillaume et Edwina, cette thématique Build Back Better puisse continuer, trouver un animateur ou une animatrice au sein de la FPCN, car on voit que le sujet est très riche, intéresse beaucoup, et l'importance de pouvoir continuer d'y travailler.
Oui, Bernard, c'est Jérémy. Est-ce que vous pourrez partager le PowerPoint?
Bien sûr. La FPCN enverra le PowerPoint à tous les participants. Au moins, je parle sous le contrôle de Justine ou même de Roland, ou voilà, du secrétariat général. Mais bien sûr, à minima, vous aurez le PowerPoint et peut-être un lien pour revoir la séance si vous le souhaitez. Voilà, ben Roland, je te propose que s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, on puisse clore cette séance. Je ne sais pas si Roland est...
Oui, bien sûr. Bernard, mais vas-y, je t'en prie. C'est à toi qu'il revient de conclure.
J'avais dit ce que j'avais à dire. Bien sûr, remercier Guillaume et Edwina pour leur travail. Qui a ouvert pas mal de questions comme c'était l'objectif, ouvert des pistes aussi d'action pour les prochaines années et qui vont terminer jusqu'à la fin juillet. Et voilà ce que je voulais dire. Donc Roland, je te repasse la parole si tu le souhaites.
Ben vraiment, merci Bernard, félicitations bien sûr à tous les jeunes stagiaires qui ont fait un travail. Je crois que la présentation sera très demandé sur le site de la FPCN et contribuera à la notoriété s'il le fallait. On espère vraiment que ce sujet pourra, grâce à cette incursion assez transversale, rallier beaucoup de membres et de nouveaux membres et vraiment faire émerger une équipe d'animation pour ce thème dans la durée. Donc, je redis ce que tu as dit et donc nous remercions vraiment cette audience qui a été très fournie. Ce thème a été, si on doit établir des records pour l'instant, le record en nombre d'inscrits, bon, toujours un peu moins de participants, mais c'est tout à fait encourageant. Et donc, il faudra qu'on recommence d'une façon ou d'une autre cette formule avec des stagiaires ou avec des intervenants qui donnent envie de participer. Enfin, on ne va pas faire l'analyse de la participation, mais on voit qu'il y avait même des francophones soit en intervention, soit en inscrit, donc des francophones de différents pays que nous saluons, et donc y compris Commission européenne, y compris les ministères, donc c'est tout ça et montre qu'il y a matière à débattre dans ce cadre, et donc nous le renouvellerons de différentes façons. Merci à tous, merci mille fois Bernard pour cette réalisation, et donc à une prochaine fois, peut-être donc après l'été, et nous, enfin, pour dire aussi que nous avons prévu de donner la parole à nos membres, personnes morales, ce que nous appelons dans le jargon de l'association, c'est-à-dire les institutions, il y en était plusieurs ici présentes, et je les cite non pas pour dire qu'elles passeront dans cet ordre, mais parce que ça me vient. Enfin, il y a Calixis hein, qui est intervenu avec Audrey, mais il y a plusieurs de Calixis. On a vu plusieurs du CEREMA dans cette. Voilà, enfin, pour ne citer que ces deux-là qui sont évidemment plein dans cette thématique particulière, mais il y a beaucoup d'autres membres, personnes morales qui seront donc, que nous allons, avec lesquels nous allons dialoguer dans la poursuite des dialogues que nous avons avec les personnes physiques au cours du printemps, et notamment pour envisager avec eux une session qui leur soit entièrement dédiée et qui permette à ces personnes morales ces entités bien connues, de dialoguer avec la FSN, mais avec les membres de la FSN plus généralement, de la même façon que nous avons fait des sessions sur des thèmes, ce sera forcément du thème. Voilà, ben, je crois que les participants s'en vont, il est l'heure de manger, donc bon appétit à tous, au revoir et à la prochaine.
À bientôt, merci. Merci. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.